Au programme de ce grand forum pour ce vendredi 12 juillet, avec à la une hier soir, une mère de famille de 42 ans décède renversée par un chauffard de 21 ans en marge de la célébration de la victoire algérienne à la Coupe d'Afrique des Nations. Le dispositif de sécurité et d'encadrement d'après-match doit-il être renforcé au vu de ce qui risque de se passer dimanche soir, jour de la fête nationale, le 14 juillet prochain. On en parle avec vous dans un instant avec Gamal Abina, Tarek Mami et Nasser Lajili. Autre sujet évidemment qui fait l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'affaire d'Orugy et les révélations qui s'enchaînent concernant les dépenses faites aux frais du contribuable par le ministre de la Transition écologique, François d'Orugy. Doit-il démissionner? La question lui a été posée, il a répondu ce matin chez nos confrères de BFM TV et d'RMC. Nous ferons un petit tour par l'école Averroès pour savoir le palmarès du bac cette année, le taux de réussite tout à l'heure avec Amar Laspar. Restez bien avec nous, c'est parti pour le Grand Forum jusqu'à 18h, voire même, et oui, jusqu'à 19h, puisque nous sommes vendredi, le Grand Forum du Sport. Eh bien, nous ferons un retour et analyse commentaire des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations et des quarts de finale hier, tout à l'heure avec Razik Metich et avec Hicham Terrak, avec un gros focus aussi sur le mercato, parce que c'est la période de mercato, évidemment, arrivée et départ des joueurs de différentes équipes, tout à l'heure entre 18h et 19h.
Le Grand Forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2.
LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est vendredi aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet. Et le 12 juillet, eh oui, ça nous rappelle quand même une date un peu particulière. Le 12 juillet 1998, c'était la victoire de l'équipe de France. C'était la belle époque où finalement chacun vivait avec l'autre. C'était la belle période où on oubliait qu'on était arabe, noir, blanc. Et on était tous ensemble pour célébrer cette victoire. Ce soir-là, c'était magique. Avec ce doublé de Zinedine Zidane et ce but, parce qu'on a tendance à l'oublier, de Emmanuel Petit, le Brésil, eh bien, a été enterré ce soir-là, si je puis dire. 3-0 au Stade de France, c'était la fête et c'était l'explosion de joie avec plusieurs millions, et j'y étais, sur les Champs-Élysées sans aucun débordement, précisons-le. C'était magique. Mais nous sommes en 2019, les temps ont bien changé, finalement. Salut Gamal!
Salut.
Comment ça va, Gamal?
Ça va très bien, et toi?
Bah oui, ça te rappelle des souvenirs. T'étais où le fameux 12 juillet 98?
On a tous fait les fous à l'extérieur, comme
toujours. Ouais, c'était magique, hein.
Ah, c'est extraordinaire.
Et là, c'est vrai, on oubliait que tu t'appelais Gamal. On oubliait que tu t'appelais David.
Ouais, absolument. C'était beaucoup plus simple.
Ou Souleymane. C'était beaucoup plus simple, ouais. Effectivement. Hier soir, évidemment, il y a eu cette joie. Double joie avec cette victoire tunisienne 3-0. Et cette qualification dans la douleur, Gamal. Dans la douleur. Ah, ouais. On a eu peur. On a eu très peur. Mmh. Mais finalement, l'Algérie l'a fait à la suite et à l'issue des pénalties. Et c'était douloureux, c'était intense, etc. Et on pensait que ça allait évidemment bien se terminer, c'est-à-dire la fête, effectivement, que nenni.
Se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Victoire au tir au but face à la Côte d'Ivoire. Les supporters ont envahi les Champs-Élysées une bonne partie de la nuit. Concerts de klaxons et drapeaux aux fenêtres des voitures. Une fête gâchée par des débordements. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour des magasins pillés dans le secteur aux alentours de minuit. Bonjour Benjamin Boukrich. Vous êtes devant un de ces magasins et les traces d'effraction sont visibles.
Oui, les bris de vitres sont toujours au sol ici, laissant dévoiler à l'intérieur des motos noires, jaunes ou oranges flambant neuves. 6 d'entre elles ont été volées hier soir. Ça s'est passé vers 23h15. Au même moment, les forces de l'ordre faisaient usage de gaz lacrymogène sur l'Arc de Triomphe. Ces motos, elles ont toutes été retrouvées peu après dans le quartier et en bon état. En revanche, des gants et des casques à 800€ l'unité n'ont pas été retrouvés. Le vol d'accessoires, c'est aussi ce qui s'est passé dans un magasin T-Max non loin de là. Clément en est le gérant.
Ah bah, on découvre en même temps, au fur et à mesure, des casques volés, des gants volés, des kits Bluetooth volés. 6 à 10 personnes qui sont rentrées dans le magasin. On va dire que comparé aux gilets jaunes, on est plutôt content de ce qui nous arrive. Mais c'est vraiment pour relativiser qu'on en est à se dire des choses comme ça. Donc, on a pris les bons réflexes, on sort les cartons, on range comme on a déjà fait. On prend des réflexes assez incroyables en 2019, mais on s'adapte.
Alors le réflexe ici devant ce magasin de moto, ça a été de poster un agent de sécurité qui a veillé toute la nuit.
Oh.
Ces scènes de désolation, effectivement, sur les Champs-Élysées, mais pas que. Aussi dans le 93, tous les bus ont été rappelés au dépôt. Trop, évidemment, de casse. Mais le drame, l'absolu du drame, c'était à Montpellier, avec la mort de cette dame de 42 ans. C'est un chauffard d'origine marocaine qui fonçait à toute allure et qui a fauché toute une famille. La maman est décédée sur le coup, 42 ans. Le petit enfant, le bébé, le pronostic vital est engagé et la jeune fille de 17 ans a été également blessée. Alors, cette question aujourd'hui, évidemment, cette mère de famille de 42 ans décède renversée par un chauffard de 21 ans. S'il vous plaît, en marge de la célébration de la victoire algérienne à la Coupe d'Afrique des Nations, le dispositif de sécurité et d'encadrement d'après-match doit-il être renforcé? D'autant plus, Gamal, que la demi-finale se jouera dimanche, c'est le 14 juillet, c'est jour de fête nationale, de feux d'artifice avec plus d'un million de personnes attendues à Paris. Comment doit-on faire? Comment doit-on procéder? Et comment expliquer ces violences qui sont absolument regrettables?
Alors déjà, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est important, parce que l'information est en train de tomber. Apparemment, ce serait en marge des manifestations de joie, mais le chauffeur n'aurait pas été là du tout pour fêter la victoire de l'Algérie. Il est d'origine marocaine et il est rentré chez lui, tout simplement. Donc malheureusement, c'est déjà trop. Ça tombe sur cette fête-là, cette célébration. Mais surtout, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que souvent dans ce genre de grands événements et de grandes manifestations, il y a des débordements. Ça, on les attend tout le temps. Évidemment, là, on fait plus attention parce que c'est les Algériens. Mais effectivement, il va falloir réfléchir à cadrer tout ça, parce que la fête doit bien se passer, doit pas déraper comme c'était le cas hier, malheureusement.
Nasser Maghi qui nous a rejoint. Bonjour Nasser.
Bonjour Christophe.
Alors, toi, tu as vibré également hier soir, oui. Et tu as été aussi désolé de voir ce qui s'est passé en marge de ces manifestations.
Oui, c'est effectivement, moi ça m'a attristé de voir les débordements qui ont pu se passer d'abord à Paris. Et voilà, de dire que c'est un simple match, donc c'est pas encore la finale de la Coupe d'Afrique, ils n'ont pas encore gagné la Coupe d'Afrique. Après, effectivement, on peut fêter avec joie, avec ce qu'on veut. Il n'y a aucun souci, mais les débordements et ce qui a pu se passer à Montpellier, mais apparemment il y a des informations qui tournent en disant que ce ne serait pas du tout avec il y aurait aucun lien entre guillemets avec l'équipe algérienne ou tout simplement la victoire de l'Algérie. Donc oui, on attend avec impatience la suite. Et d'ailleurs,
si mais c'est déplorable quand même l'image que ça donne. Ce matin, on ouvre la télé. On ouvre Twitter et on voit ça. C'est-à-dire, on nous l'a mis tout de suite. Effectivement, vous avez raison. Si on s'aperçoit que ça a aucun lien avec ce qui s'est passé hier soir, c'est encore plus grave parce que les médias ont aussi ce devoir. Et on est dans la course à l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils balancent une information, un fait, et te le relatent par rapport à des festivités quelque peu gâchées par endroits. Évidemment, la casse, on la cautionne pas. Mais c'est quand même rien à côté de la mort de quelqu'un. Bah, ouais. Et là, si tu veux, on a franchi le cap, le pas en disant attention ce qui s'est passé à Montpellier. C'est issu de ce que de gens qui sont venus fêter la victoire de l'équipe algérienne, alors que le mec apparemment est même pas algérien, il serait d'origine marocaine. Et ça serait vraiment encore beaucoup plus grave. Mais moi, ce qui m'intéresse au-delà de tout ça, c'est d'essayer de comprendre ce pourquoi on sort dans la rue pour fêter, et de là tout va bien au départ, c'est-à-dire d'aller fêter ensemble entre amis, et on peut tous être capables de le faire autour de cette table, d'aller fêter la victoire de son équipe qu'on supporte, et d'en arriver à des images pitoyables. Pourquoi aucun bus en 93? Pourquoi de la casse? Pourquoi casser des boutiques sur les Champs-Élysées? Pourquoi bloquer les gens sur le périphérique? Pourquoi?
Alors moi, je suis d'accord avec toi Christophe, mais il faut distinguer les deux. Moi, pour moi, je vois des supporters, des gens qui sont là, des familles, des enfants, ce que j'ai pu voir hier, même dans ma propre ville. Ouais. C'était, voilà, bien sûr, j'étais avec eux, j'étais content, j'avais les sourires aux lèvres en disant, voilà, bah, c'est bien, maintenant, on va s'attendre peut-être en finale entre la Tunisie et l'Algérie, bien sûr. Non, mais c'est ça, moi, qui m'a beaucoup touché. Et derrière, effectivement, on a des délinquants, on peut pas dire autre chose, c'est des délinquants. À partir du moment où on commence à casser, on commence à faire de la délinquance, c'est des délinquants. Donc, un délinquant doit être condamné. Et tout simplement, on n'a pas à discuter, on n'a pas à polémiquer là-dessus, quoi.
Parce que je trouve très intéressant, d'ailleurs, c'est incroyable. C'est dire le vice de certains journalistes. Ils nous annoncent qu'il y a eu un magasin de moto qui a été cambriolé avec des motos qui ont été embarquées.
Ouais.
Ça, c'est pas bien. Ensuite, on se rend compte que les motos, elles ont finalement pas été abîmées et qu'elles ont été laissées un petit peu à l'abandon. Mais il faut quand même qu'ils précisent qu'ils ont volé des casques et qu'ils ont d'une valeur de 800 euros. Si ça, c'est pas mesquin comme méthode, au lieu de dire que finalement...
Mais est-ce que c'est les supporters d'abord?
C'est ce que je dis. Donc c'est des n'importe
qui. J'ai du mal à mettre dans la tête quand même que quand on vient supporter un truc, on pense à casser. Non, tu penses à sauter, à chanter, à boire un petit verre entre amis, enfin à célébrer, à klaxonner éventuellement. Mais ça y est, stop, on arrête là. Je veux dire, qu'est-ce qui vous passe par l'esprit de venir casser? C'est pour ça qu'il y a des gens aussi. Attention. Moi, j'en ai fait pas mal des manifestations et qui plus est des manifestations pour soutenir le peuple palestinien. Vous savez ce que c'est quand on soutient le peuple palestinien dans ce pays, c'est très dur. Et ils sont infiltrés par des gens, notamment de la LDJ et du Bétard, qui viennent avec des drapeaux palestiniens. Ils n'hésitent pas, hein. Ils sont prêts à tout, ces mecs-là. Et ils provoquent. Et après, on dit quoi? Ce sont les Palestiniens, effectivement, qui ont fait ça, des pro-palestiniens qui font ça dans Paris. Non, non, attention, il faut faire attention et ne pas exclure aussi le fait que ces manifestations soient infiltrées. Mais ce qui n'excuse en rien comportement de certains supporters qui est regrettable et déplorable. Tiens, on va voir ce qui s'est passé à Marseille. Jamila, il y avait beaucoup de monde sur, sur le Vieux-Port. Près de 10 000 personnes, apparemment. Bonjour, Jamila. Wow.
Bonjour,
Jamila.
Alors, je voudrais juste une petite intervention. Je suis d'origine algérienne. Je félicite toute l'équipe et tous les Algériens. Et j'étais en Égypte, donc j'ai pris une grande partie de match. C'est juste pour vous dire que les Algériens qui sont en Égypte, ils n'ont rien fait, pas de dégâts. Il y avait la fête tous les soirs, il n'y avait aucun problème. En Algérie, c'est pareil. J'ai eu la famille qui m'a dit la même chose. Il n'y a qu'à Marseille, en France, que c'est... Je pense que c'est des Français d'origine algérienne qui ont juste... les parents algériens qui n'ont rien à voir d'algérien et qui essayent de faire de nous gâcher notre joie tout simplement.
Après,
je suis désolée.
Ouais.
J'ai quatre garçons entre 18 et 28 ans.
Oui.
Et j'ai jamais eu ce genre de problème avec mes enfants. Donc je pense que c'est un peu l'éducation.
Jamila, j'ai une question à vous poser. J'ai une question. Si dimanche soir l'équipe algérienne gagne, évidemment ce qu'on souhaite. Est-ce que si vos enfants vous disent « moi j'ai envie d'aller manifester ma joie dans les rues », vous allez laisser faire ou pas?
Ah non, du tout. Ouais. Du tout, parce que ils peuvent sortir entre copains, faire la fête par exemple en un endroit qu'ils connaissent dans le quartier, mais faire la fête dehors comme ça, à courir entre des personnes qu'on connaît pas, qui mettent le feu, qui volent et qui... Enfin, on s'attend à ça tout le temps, hein. Et c'est chaque fois, c'est comme ça, chaque fois qu'il y a une fête, hein, que ce soit le 14 juillet, que ce soit le 5 juillet, que ce soit, voilà, chaque fois qu'il y a une fête, il y a des gens qui profitent, mais ils ont rien à voir avec la Coupe d'Afrique, ni le gain des Algériens, ni du Tunisien, hein, ça rien à voir. Hein.
Je peux en parler
Merci. Oui, Jamila, oui, Gamal.
Oui.
Non, vous pouvez pas dire qu'ils ne sont pas Algériens, c'est pas parce qu'il y a des voyous. Il y a des voyous qui se comportent mal, ça peut être des infiltrés, donc cela ne serait pas algérien. Mais il y a parfois des gens qui se comportent mal et qui sont de chez nous. Et puis il faut jamais perdre de vue qu'en France, c'est jamais anodin le rapport France-Algérie quand il y a une victoire. C'est toujours particulier. Moi, j'ai assisté à pas mal de célébrations qui étaient extraordinaires. J'ai aussi assisté à des violences policières gratuites, et je maintiens qu'elles étaient gratuites, où certains voltigeurs tapaient sur les Algériens. Donc il y a toujours des dérapages de tous les camps. Dès l'instant il y a un phénomène de foule, vous pouvez pas dire ils ne sont pas. Ils sont Algériens, binationaux.
Absolument.
Et malheureusement, souvent égarés d'ailleurs, mais dans tous les cas de figure, ça reste des Algériens. S'ils font des dégradations, c'est des voyous algériens, c'est tout.
Merci Jamila, en tout cas, pour votre appel.
Juste faire une petite parenthèse.
Oui, vas-y, pour votre parenthèse.
Ils sont algériens, mais je pense pas qu'ils aient l'éducation algérienne. Parce que moi, autant qu'algérienne, et autant que j'ai beaucoup de mamans, des copines, qui ont leurs enfants algériens, qui a une éducation, un encadrement par la famille, et je suis désolée, on n'a pas eu d'enfants qui ont été maltraités, ni ils ont traité d'autres personnes mal, ni ils ont été eux-mêmes maltraités. Je suis désolée.
Bon, merci Jamila en tout cas pour votre appel depuis Marseille où il y avait beaucoup de monde, 10 000 personnes sur le Vieux-Port hier. Tarek Mami, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tombe comment dire? Le sel sur le couscous pour ceux qui rajoutent le sel, c'est pas mon cas. C'est-à-dire, on va avoir un super débat sur une réalité qui est donc le comportement de nos jeunes qui sont français d'abord pour faire simple et algériens ou tunisiens ou marocains en deuxième lieu parce qu'ils le sont par leurs parents. Ces jeunes qui sont nés ici, ils sont censés avoir une éducation comme tous les autres d'ici et de se comporter un minimum comme les jeunes d'ici, y compris ils peuvent devenir gilets jaunes, pour être clair.
Ouais.
Mais le fait de se revendiquer algérien le jour de la casse et pas algérien le jour où Le Pen insulte les Algériens, pour moi c'est pas des Algériens. Et je vous dis ça parce que ça me rajeunit.
C'est un peu lourd quand même.
Oui, non, mais j'y vais, cher Christophe, et parce que je vous parle d'expérience. D'abord, dans ce fameux match du 8 octobre 2001, nous y étions. On a perdu dessous France Maghreb 2 puisqu'on a investi pour aller nous installer avec du matériel pour diffuser nos commentaires en direct avec mon ami Febrem Hasmaïl Alay Rahmo. Et on a fait quelque chose qui ne se fait jamais dans les stades. C'est-à-dire que le match s'est arrêté à la 71e minute. Et nous, on a fait une heure de commentaires derrière tellement on était outrés de ce comportement. Deuxième chose, je le dis parce que j'étais à Marseille lors d'une grande victoire de l'Algérie, je ne sais pas si c'est la Coupe du Monde ou une autre Coupe.
Oui, moi aussi, en 2014.
En 2014. Oui. Et le soir, il y avait plus de 15 à 20 000 jeunes algériens et leurs copains. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit algérien, c'est algérien plus tunisien, plus marocain, plus tous les originaires de l'Afrique noire,
ouais,
plus tous les portugais, plus tous les espagnols, copains des Algériens.
Ouais, ouais.
Et on met tout ça dans l'Algérie, c'est fait qu'il y a trois drapeaux et 10 000 personnes pour que ce soit des Algériens. Donc ça, c'est une nuance. Et deux jours après, Le Pen devait donc passer en correctionnel à Marseille pour le fameux t-shirt où il avait écrit « L'Algérie, c'est Marseille, Marseille, c'est l'Algérie ». En tout cas, quelque chose qui était insultant. Le soir même, sur le Vieux-Port, j'ai vu des jeunes, cher Christophe, qui distribuaient des tracts pour dire « Maintenant que vous êtes là, après-demain, venez devant le tribunal pour montrer à Le Pen qu'on rejette son comportement ». Et j'y étais, moi, au tribunal deux jours après. Il y avait les 15 qui distribuaient le tract et il n'y avait personne d'autre. Donc, est-ce qu'on est algérien à vitesse et à géométrie variable? Quand on a vendu de trouver un exutoire, on devient algérien. Des fois, on manifeste très bien comme tous les autres et des fois, on casse. Mais quand il faut aller défendre cette Algérie, il n'y a pas de truc. Je veux dire, je ne sais pas combien il y a eu de personnes qui sont descendues, mais on peut comparer au nombre de personnes qui sont descendues pour le Hirak en France. Ouais. Tous les dimanches, tous les samedis, tous les vendredis, à pareil, hein, est-ce qu'il y a eu autant de monde?
Non, il y a personne.
Donc, comment on fait pour choisir d'être algérien dans certains moments et pas d'autres? C'est pour ça que moi, je rejoins notre auditrice. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être facho pendant deux heures. Et je le dis, donc comme ça, les choses sont claires et les auditeurs ne sont pas surpris.
Vous allez avoir de la résistance, cher Tariq.
Ah, oui, mais c'est pas grave.
Parce que vous, attendez, non, moi, il y a une première réflexion que je me fais.
Je termine juste cette phrase. Oui. Et pour moi, ces gens ne sont pas algériens. J'aurais été ministre de l'Intérieur ici ou là-bas. J'aurais fait de la déchéance, je vais être fasciste aujourd'hui à tous ces jeunes pour leur dire moi, gouvernement algérien, je ne te reconnais pas comme algérien. Donc comporte-toi comme un bon algérien du Hirak d'aujourd'hui qui nettoie la terre. Et là, je te donnerai deux passeports.
Ben, je suis pas du tout d'accord.
Ben, moi non plus. Attendez, bouge pas, Gamal. Non, parce que. Attendez, bougez pas. Juste, on va remettre de l'ordre. Parce que Tariq Mami aime bien nous dire ici, et à juste titre, qu'il faut éviter de réagir avec émotion. Et là, ce que fait Tariq Mami, réagir avec émotion.
Oui, et je l'ai écrit.
Pourquoi? Non, mais pourquoi? Parce que moi, j'ai eu à peu près, pas jusqu'alors de dire de, vous n'êtes pas algérien, mais j'ai eu, en tout cas, cette réflexion qui me dit, voilà, j'étais en colère ce matin. Et quand on veut, au fur et à mesure de la journée, Tariq, on s'aperçoit d'abord que le truc de Montpellier, ça n'a rien à voir.
Non, ce n'est pas encore fait. J'ai cherché les dépêches.
Ouais, ouais.
Je n'ai pas trouvé des dépêches du procureur ou de la police. J'ai trouvé le correspondant des CNews qui n'écrit pas la même chose sur le site et je suis en train de chercher.
En tout cas, le jeune homme est d'origine marocaine déjà, première chose.
Attendez. Et marocaine, algérienne pour le français moyen, c'est quoi?
Non, mais d'accord, mais Tariq, juste.
Aujourd'hui,
on est dans l'émotion et après, il faut être dans la réflexion. C'est un problème franco-français, Tariq.
Non, mais Christophe, moi j'ai toujours été et je serai toujours dans la raison. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas être dans la
raison. Vous n'êtes pas dans la raison.
Aujourd'hui, non.
Oui,
aujourd'hui, j'ai décidé
on le constate bien.
De faire dans l'émotion et dans le fascisme pour dire « Yonamar, nous sommes la communauté de Iqra, donc la communauté de la raison, et on a souvent, tous, sauf moi, et sauf moi aujourd'hui, dans l'émotion. » Et donc, c'est pour ça que je fais exprès.
Alors, pourquoi tu n'es pas d'accord, Gamal? Vas-y.
C'est très simple. D'abord, parce que il faut jamais perdre de vue plusieurs références. D'abord, ils sont algériens, qu'ils le veuillent ou non. C'est marqué sur la tronche, il n'y a pas à discuter. Je veux dire, on est algérien parce qu'on a une tête d'arabe, c'est tout. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, quand Le Pen, il dit, rentrez chez vous, ils ne feront pas de couleur. Ils ne regardent pas la carte. Mais surtout, la question qui se pose, et moi, j'ai eu un débat il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui a attiré mon attention, une femme d'ailleurs d'origine marocaine, qui m'a dit, mais je trouve génial les polémiques sur le drapeau algérien. Pourquoi? Parce qu'elle dit, finalement, ça renvoie à la France sa non-acceptation de ses minorités. Elle dit, intégrez-vous, mais on veut pas de vous. Intégrez-vous, mais restez dans les cités. Intégrez-vous, mais restez dans les ZEP. Intégrez-vous, mais ne trouvez pas de travail. Intégrez-vous, mais ne soyez pas français. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait les marcheurs. Ils ont fait les intégrés. Ils mangeaient du porc. Ils se tapaient la bibine. Ils se tapaient la française. Et à la fin, on les a jetés. Et en 90, quand il y a eu rien, c'est la vérité. Bah, je les ai vus, hein. Et j'en connais.
On sent qu'il y a du vécu là-dedans.
Tous mes copains étaient là-dedans.
Oui.
Ils ont rêvé de ça.
Sauf toi, évidemment.
Évidemment. J'ai compris l'arnaque.
Il a compris avant les autres.
Ah, non, mais mon père était très politisé. Il m'a dit, écoute, tu seras jamais français. Voilà. T'as une carte française, il n'y a pas de problème, t'es citoyen, la citoyenneté, je la revendique. Mais l'ancienneté, le passé historique, la profondeur, tout ça n'a pas, c'est logique. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En 90, c'est l'islam qui a pris le relais. C'est-à-dire que là où il y a eu un vide, c'est installé l'islam.
Alors, en 90, on a fait installer l'islam à la place.
Oui,
la marche polygate, on l'a fait installer.
Oui, d'accord, mais ça change rien.
Non, ça change beaucoup.
Oui, mais, non, mais il y avait un socle. C'est qu'on le fait pas de force.
Ah si.
Si un réceptacle, c'est qu'il y a eu un échec de l'intégration.
Non.
Donc à partir
on continuera parce que
on va y arriver dans deux minutes.
Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est ça le débat qui m'intéresse.
La réislamisation, c'est le fils en Algérie qui arrive en France.
Non,
en gros, c'est ça.
Non, mon ami.
Ça commence par ça.
C'est 1983, SOS racisme. Non, la marche pour l'égalité.
Oui, mais ça, c'est la conséquence de. Je parle en 90 quand le fils arrive en Algérie, tous les Algériens qui sont là-bas donnent des cours aux agents de banlieue pour leur dire mais vous n'avez pas d'identité française, vous êtes musulman. Mmh. Et là on bascule sur autre chose. Après dans les années 2000, ça s'est un peu apaisé, il y a eu un recul de cette réislamisation politique, j'allais dire. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et on constate encore une fois que cette 3e, 4e génération, 5e génération, les premiers Algériens sont arrivés en 1920 en masse, hein, je parle pas d'avant, il y a une première arrivée en 1905 à Marseille, après 1920 ils arrivent en masse. 5e génération et on leur dit encore vous êtes issus d'eux, vous êtes fils d'eux. Alors évidemment les gars ils comprennent parfaitement qu'ils sont contrôlés par la police, qu'ils sont pas contrôlés parce qu'ils font une bêtise mais parce qu'ils ont une tête d'arabe. Et ben quand ils sortent le drapeau aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont algériens, ils vont pas en Algérie, ils le connaissent pas du tout ce pays. Ils sortent un drapeau parce qu'ils puisque je suis pas français, je vais les emmerder avec mon drapeau, je suis fier de mon pays qui n'est pas le mien. Et maintenant la responsabilité là, je vous rejoins pas du tout sur un point, et vraiment pas du tout. Moi j'en veux à 2000% aux autorités algériennes de nous avoir foutu dehors de cette façon. Ils nous ont coupé tous les cordons. On n'a pas de banque algérienne, on n'a pas la rapatriation des corps, on n'a pas la possibilité de faire nos vacances en Algérie parce qu'ils nous sabotent, ils nous maltraitent. On va au consulat, on est traité comme des chiens. Voilà ce qu'a fait l'autorité algérienne parce qu'elle avait peur de notre présence en Algérie. Les 20% algériens à l'extérieur. Et cette autorité a une responsabilité. Elle n'a pas à dire vous n'êtes pas algérien. Aujourd'hui, elle se la ferme, elle se plie, elle dégage avec le Hirak et on redevient algérien. Parce qu'il faut voir quand même un truc, et ça je vais finir là-dessus, c'est que le match de foot, il est gagné par qui aujourd'hui? Belmadi, Abinational, pas de chance. Il y a même un Andy, il a même pas un nom arabe. Le gars, il a
Andy Delors.
Andy Delors.
C'est oui, qui ont pris la priorité naturalisée.
Et moi, ma fierté en Algérie aujourd'hui, c'est là où j'ai adoré ce match. Il m'a fait vibrer. Pourquoi? Parce que notre gardien, extraordinaire. Ça veut dire le président arabe. Notre gardien, notre président, il est noir et algérien et chapeau.
Et barbu.
Barbu fashion.
Non. Et barbu pour ceux qui n'ont pas eu la photo.
Ouais, mais beau gosse.
Mohamed, il nous appelle de Lyon. Salut Mohamed.
Oui, salut, bonjour.
Comment ça s'est passé à Lyon, Mohamed? Ça a été calme ou pas?
Écoute, moi, on a fêté ça à la maison. On était à fond dedans, comme la plupart. Et j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux ce qui se faisait, sur les champs, etc. Au fait, bon, je suis d'accord un petit peu avec Tarek Mami, puis Gamal, évidemment. J'en étais sûr que ça allait faire la une des médias, surtout voilà, enfin, les radios, etc. Les soi-disant chroniqueuses, par-ci, par-là, les habitants, etc. Bref, vous les connaissez. Moi, je voulais juste dire un petit truc, très court. C'est, on pourra trouver toutes les raisons du monde, mais néanmoins, l'éducation, on parle d'éducation. Moi, j'en veux beaucoup, à ces parasites, voilà, aux parents, les grands frères. Ils ont bloqué le périph, évidemment, il y a eu la personne qui est décédée, donc là, c'est très, très, très grave. Mais quand même, du côté de Paris, les gens qui ont bloqué le périph, qui ont cassé certaines vitrines, on les voit, les vidéos, on pourra trouver toutes les raisons du monde. Mais les parents, qu'est-ce qu'ils font, sincèrement? Moi, j'ai honte pour les parents depuis ce matin. Voilà, j'ai honte pour les grands frères et les parents qui sont même pas capables d'expliquer à leurs enfants qu'on peut fêter tout ça dans le calme, parce que les médias, les politiques, on est au mois de juillet, il n'y a pas grand-chose comme actualité, ils n'attendaient que ça.
Mais pardonnez-moi Mohamed, je vous entends et j'entends ce que dit aussi Tarek et beaucoup de gens aussi aujourd'hui. Sur les réseaux. Pardon, juste aujourd'hui. Mais je trouve que vous perdez un peu de raison et vous êtes vraiment dans l'accusation un peu, j'allais dire, limite. Parce que il faut aussi, vous savez, quand il y a un problème, il faut s'attaquer. Non, vous êtes caricatural, bien entendu. Mais quand il y a un problème, il faut aller aux racines du problème. Pourquoi on en est là aujourd'hui à avoir ce constat et à parler de cela aujourd'hui? C'est qu'il y a forcément une raison, d'accord? Et cette raison, il y en a évidemment plusieurs. Ouais. On sait, entre Algérie et France, il y a quelque chose de particulier.
Bien sûr.
Il y a une histoire.
Entre les parents, entre les enfants et la France.
Il y a eu un problème, à mon sens, de transmission, messieurs. Voilà. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. Oui, Mohamed.
Voilà. Christophe, on pourra trouver toutes les raisons du monde. On peut remonter à l'histoire. Est-ce que ces gens-là, comme disait ce matin dans les grandes duels, ils ont un problème avec leur culture, etc. Ils ne savent pas où se mettre. Mais néanmoins, Christophe, tu ne pourras pas remettre en question le fait que certaines personnes, hier, ils ont bloqué. Quand bien même tu as un problème avec ton identité, que tu es rejeté, que tu subis le racisme tous les jours, mais ça va pas t'obliger à casser les vitrines, à insulter les gens et bloquer le périph et sortir des voitures comme ça en roulant à 80, etc.
Non, pour il les faut vitrines, pas généraliser.
Pour les vitrines, oui, pardon, Mohamed, mais il faut surtout aussi dire, c'est pas une manière d'excuser ni de voilà, mais il y a des gens qui ont infiltré, qui ont pris le drapeau algérien, qui ont mis le maillot et qui se sont habillés pour foutre le bordel.
Non mais
Tarek, vous rigolez. Attendez, vous avez fait des manifestations pro-palestiniennes, Tarek, vous connaissez quand même. Arrêtez. Vous n'allez pas me faire de pas me croire ça.
Même si
un supporter algérien qui venait fêter l'équipe, la victoire de son équipe, n'a aucun intérêt à aller casser les vitrines. Je vous le dis honnêtement.
Je vais encore plus loin. Juste vraiment un truc
aucun.
Important. Par rapport à ces questions. D'abord, reprocher aux parents de ne pas avoir été à la hauteur, c'est trop facile parce que les parents, ils se battent contre la cité. Il faut jamais perdre de vue. Nous, on a pratiquement frappé mon ex-beau-frère pour qu'il ne devienne pas délinquant. C'est très difficile pour les parents de garder leurs enfants parce que l'environnement est défavorable. Ensuite, sur la question de la violence et des vitrines, je rappelle quand même, on en fait quoi des gilets jaunes? On les expulse. Oui. Ils ont montré un exemple quand même, pas tous, mais il y a eu des dérapages de Français de souche, bien éduqués, qui dans un mouvement de masse, et ça arrive souvent malheureusement,
de foule,
excités dans la foule, le principe de la foule, de la masse comme ça, font des bêtises. Et c'est vrai que ça arrive. Alors, faut comparer les gilets jaunes où on parlait pas de 800 euros de casque volé, on parle de millions d'euros de pertes. Là, bizarrement,
on parle pas de l'arc de triomphe qui a été souillé.
Souillé,
d'accord. Vous voulez là, c'est grave quand même.
Vous voulez que je redevienne logique pendant 5 minutes.
Oui, s'il vous plaît. Non, jusqu'à 18h, ça m'arrangerait.
Non, mais juste 5 minutes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de tout lâcher. Parce qu'on a beaucoup de choses. Il faut qu'on soit à la fois victime, responsable et coupable, et pas seulement victime, parce que beaucoup se complaisent dans victime. Pour revenir à ma vision de raison, l'État a abandonné ses quartiers et ses citoyens français.
On est tous d'accord.
Voilà.
Nasser, qui est
dans
les quartiers, il est d'accord.
Non. Ah non, mais moi je rejoins complètement.
Voilà. Après, je passe à l'autre côté. Ce n'est pas parce que l'État abandonne que nous, on va à la solution de simplicité. Et que de temps en temps, pour exploser, on fait ce genre de choses. Et je vous dis, moi, vous prenez 100 personnes. Il y a un Algérien avec un drapeau. 99 personnes qui l'accompagnent et qui sont ses copains. Pour l'image, pour la télé, pour la presse, c'est 100 Algériens qui descendent cassés.
C'est clair.
Est-ce qu'on est clair? Donc ça, c'est la partie raison. C'est pour ça que cette partie raison que je connais, que je développe depuis 30 ans sur cette radio, sur la thématique, qu'aujourd'hui, je suis furieux, surtout si cette information de Montpellier va sortir comme une fausse information, c'est-à-dire que ça serait un accident de la circulation et pas un accident de circulation cadre de la célébration.
Bien sûr.
Parce qu'elle est indirectement dans le cadre de la célébration. On dit que le type voulait éviter une rue, il a pris une autre. C'est pas une excuse. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, quelle image nous transmettons à nos enfants et aux générations futures pour leur dire, messieurs, vous êtes citoyens français, par ailleurs, vous êtes algériens de descendance algérienne par vos parents, par ailleurs, ou tunisiens ou marocains, par ailleurs, vous pouvez vous en revendiquer, mais pour autant, il faut que vous soyez, vous, les meilleurs, parce que dans le Coran, le meilleur d'entre tous, dit le Coran, et pour, on voit le truc, surtout que quand on voit comment ça s'est passé, en gros, la célébration, cher Christophe, hier en Tunisie, pas de casse.
En Algérie,
pas de casse. En gros, pas de casse. Et les gens ont nettoyé
que pas de casse.
Et en Algérie, pas de casse. Et surtout qu'aujourd'hui, après avoir célébré. Après avoir célébré hier, on a refait du Hirak de nouveau. Et pas de casse. Ça veut dire que. Est-ce que ça veut dire que les Algériens d'Algérie ont atteint un seuil de maturité? Et la question, je la pose à Gamal.
Supérieur
aux Algériens d'Algérie.
Évidemment, parce que c'est pas une erreur.
Stop. Je vous arrête parce que j'ai la pub. D'accord. On se retrouve dans un instant. Et vos appels 01 40 33 9000. Je pense qu'il y a un moment, et c'est important de le faire aujourd'hui, il faut qu'on se parle. A tout de suite.
Oui. France Maghreb 2.
Ce qui est bien dans toute cette histoire, mesdames, messieurs, sur France Maghreb 2, dans le Grand Forum aujourd'hui, c'est que les Tunisiens, eux, ils se disent, ils regardent tout ça, nous on a gagné, nous, 3-0, on n'a pas fait de bordel.
Dans le match,
tout s'est bien passé.
Et
vous allez voir, la Coupe d'Afrique, on va la ramener chez nous. Hop là, c'est écrit.
Non, mais voilà. La Coupe d'Europe, la Coupe d'Afrique, on va d'abord la ramener au Maghreb. Après, on peut l'installer à Annaba, en rappelant qu'Annaba, c'était la Tunisie il y a quelques temps.
C'est une région tunisienne.
Et que c'est la France qui a fait Annaba.
Bon, alors la question que l'on pose, s'il vous plaît, taisez-vous 5 minutes. La question qu'on pose aujourd'hui, c'est cette femme donc de 42 ans, décède renversée par un chauffard de 21 ans en marge. Alors, encore une fois, selon les informations qu'on a et qui peuvent être contredites au fur et à mesure du temps, des célébrations de la victoire algérienne. à la Coupe d'Afrique des Nations. Le dispositif de sécurité d'encadrement d'après-match doit-il être renforcé? Parce que quoi? Bah parce que dimanche, bah il y a ces deux demi-finales. Ça vous fait plaisir de m'écouter ou c'est,
oui,
c'est,
non, mais c'est non, parce non, que on négocie qui va gagner la coupe
oui,
en fait.
Oui, bah on verra
et
ça
puis après.
Après
on en verra aux entraîneurs.
On est le 14 juillet, c'est la fête nationale. Il y a plus d'un million de personnes qui sont attendues à Paris. Il y a l'Algérie qui joue à 21h. On fait comment le bordel là? On gère comment?
Et les gilets jaunes?
Non, les gilets jaunes, oui, bon.
Ils sont là aussi.
Ouais, bon, ça va. Non, mais le dispositif doit-il être renforcé? Le dispositif d'après-match. On s'est demandé s'il y avait un état hier soir.
Ah, c'est clair.
Non, mais franchement, on se pose la question. Est-ce que vous craignez pas, dimanche soir, des gros débordements? Parce que, ils vont, évidemment, on voit le Front National qui, à son habitude, sort les grandes phrases en disant il faut interdire l'accès aux Algériens aux Champs-Elysées. D'abord, ça n'existera pas et ça ne se fera pas. Parce que moi, vous avez à deux pas le Champ de Mars de feu d'artifice qui sera tiré. On
non, fait mais moi, je ferai un couvre-feu sur le 93, j'ai dit le matin. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure comment je ferai.
Ça, c'est pas objectif, Tarek.
Oui, je sais que c'est pas objectif.
Non, non, ça,
je vous ai dit aujourd'hui.
Vous avez la raison, je vous en prie.
Non, je vous ai dit aujourd'hui, j'ai fait 10 minutes de raison.
Ouais.
Et maintenant, ça va être libre, court.
Ouais.
Non, mais l'idéal,
oui, Nasser, toi t'es sage, toi. Je te connais.
Dans ce que tu viens de dire, là, Christophe, l'idéal serait qu'il y ait un endroit de rassemblement pour éviter tout trouble et tout problème.
Bah, comme les gilets jaunes.
Absolument.
On les interdit,
bien sûr.
On les interdit.
Bien sûr, non, mais on peut les autoriser à être dans un endroit pour fêter leur victoire. Il y a
est-ce
aucun
que si c'est bien encadré, qu'il y a un dispositif adéquat, ça peut bien se passer aussi.
Bien sûr, ça peut même très très bien se passer.
Mais moi, le problème, c'est que...
Et je pense que c'est ceux qui feront la fête le dimanche qui vont calmer ceux qui seront excités autour de cette manifestation.
Parce que moi, ça me gêne pas, à la limite, de voir des gens qui klaxonnent dans les rues, qui chantent, etc. Tant mieux, je veux dire. C'est magnifique, même.
Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, vous savez, c'est quoi, quand même, ce qui est extraordinaire? C'est la première fois qu'il y a un incident sérieux après un match algérien. Avant, on a fait des... Non, avant, il n'y avait jamais de problème.
Non, avant, oui. C'est vrai que quand on regarde le match Algérie-Allemagne en 82, tout le monde avait fêté. Non, mais tout le monde avait fêté. Oui, mais ils avaient fêté la victoire, il n'y avait pas de débordement.
Mais même en 2014, il n'y avait rien. On y était, c'était une nuée de personnes.
Moi, j'étais à Marseille, ça s'est super bien passé.
Il y avait aucun problème. Ça vient d'arriver maintenant. Et je rappelle encore une fois que le mauvais exemple, il était donné après l'histoire des gilets jaunes. Je veux dire, c'est vrai que ça a dû monter à la tête de 2-3 petits jeunes. Ils se sont dit, bon, il y a moyen de prendre une petite vitrine. Maintenant, faut voir la vitrine, ils ont attaqué. C'est un magasin moto.
Est-ce que c'est les supporters?
Ben, j'en suis pas sûr. Un magasin
de motos. Non mais au-delà de ça, Christophe.
Personne les motos.
Christophe, si on reste fixé que sur une vitrine, ok, bon, pas de souci, ça peut être un incident. Mais quand on voit qu'il y a des bus qui ont été volés, qui ont été cassés, qui ont été saccagés, donc à un moment donné, on sait très bien que.
Qu'est-ce qu'on emmerde quand on empêche les bus de circuler? Parce que
ceux qui
sont en 93 qui n'ont pas pu rentrer chez eux que de rentrer à pays.
Bah, malheureusement, c'est leurs parents et leurs grands frères et leurs grandes sœurs.
Bon, ça pour la petite histoire, si vous voulez rigoler, hier soir, j'étais pété de rire. On sort du restaurant dans lequel diffusait le match et il y a un bus. J'ai même pas besoin de vous dire quelle origine il était, qui a fait tout son parcours en klaxonnant. Je veux pas dire, mais il y a quand même des tics qui font de l'anti-jeu par rapport à la RATP.
Ouais, hein. Mais ça va, c'est sympa.
Non, c'est mignon, sympa. C'est sympa.
Au contraire, moi, on est preneur si ça rassemble. Je veux dire, tant mieux. Sadek nous appelle de Provins. Bonjour, Sadek.
Non, pas Sadek. Salam alaikum, c'est Fatah.
Excusez-moi, alors attends, on va la refaire. On accueille Fatah, qui nous appelle de Provins. Salam alaikum, Fatah. Bonjour, Fatah, soyez bienvenue. Fatah?
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Ben vous non, je vous appelle moi, Fatah, vous appelez bien Fatah.
J'ai pas de retour.
Allô?
Ah, pas de retour.
Fatah?
Oui, vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Quel est votre prénom, monsieur?
Allô, vous m'entendez, Christophe?
Oui, on vous entend.
Quel est votre prénom? Bon, apparemment, il nous entend pas, donc rappelez-nous quand vous nous entendrez, ça sera plus garanti. Non mais, est-ce qu'on est d'accord autour de cette table que ce problème de ce qui s'est passé hier en marge des festivités de célébration du match Algérie de l'équipe algérienne, est-ce que c'est un problème franco-français? On est d'accord là-dessus?
En France, non mais bien sûr. Non mais c'est vrai, c'est triste à dire. Quand on regarde, quand on constate que malheureusement dans les autres pays on n'a pas ce problème-là et que malheureusement en France on a ce problème-là, effectivement, je pense qu'il y a aussi un problème d'identité. Parce que quand on constate aujourd'hui ce qui manifeste, tu l'as bien dit tout à l'heure, Gamal, c'est que le trois quarts de ces personnes-là ne connaissent pas l'histoire de leur pays, de ce pays, de l'Algérie.
Ils connaissent juste le rejet.
Absolument.
C'est la réaction de rejet, et ils adhèrent à un mythe algérien. D'ailleurs, l'Algérie n'adhère pas à eux, hein, malheureusement. C'est ce que je dis toujours à chaque fois. Je dis un truc assez extraordinaire dans le rapport des Maghrébins de France et des Algériens en particulier et leur pays d'origine. C'est que l'Algérie ne les aime pas et eux, ils aiment une Algérie qu'ils ne connaissent pas. Donc vraiment, on est dans une dissonance qui est incroyable. Et pour emmerder pour emmerder les fachos, ils sortent le drapeau. Parce qu'ils s'attachent à l'idéal d'un pays qui est du Sud.
C'est vrai que c'est pour ça? Non, ils sortent le drapeau parce qu'ils se sentent appartenir à une culture que certes ils ne connaissent pas, mais ils se sentent attachés éternellement à cette culture, oui, à ce drapeau.
Éternellement attachés, ça marche pas.
Ouais,
bah, non, mais, le truc, c'est que l'idée, c'est quoi? C'est se dire, mais ça emmerde quand même, et quelque part, on est fiers. On est fiers parce que c'est un outsider.
Ça, oui, c'est ce nif, oui, bien entendu.
Oui, c'est le nif. Voilà. Puis c'est pas en plus, c'est même pas verbalisé, ils comprennent pas ce qu'il faut l'expliquer. Mais tu connais l'Algérie, non? Pourquoi tu l'aimes? Bah parce que c'est un beau pays. Mais tu le connais pas. Et là il y a une explication irrationnelle.
Ouais. Alors nous sommes avec Rachid qui nous appelle
de
Malin.
Je suis silencieux, vous me dites quand vous voulez que je parle.
Oui, non mais bah, intervenez Rachid, Tarek. Rachid, bonjour.
Salut Christophe, ça va?
Ça va très bien Rachid.
Ouais. Bah écoute, je vais rebondir sur ce qu'il est en train de dire concernant le drapeau si tu veux bien.
Allez, vas-y Rachid.
Alors il y a rien d'irrationnel, absolument pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, quand je parle, alors que je suis né en France, donc voilà, je précisais, je suis né en France, je suis français franco-algérien, donc français d'origine algérienne. Et bizarrement, on me demande souvent, t'es de quelle origine? En tout cas, c'est quand j'étais jeune, on me le faisait souvent. Et à force de te demander, t'es de quelle origine, en sachant que t'es français, donc inconsciemment, tu vas revendiquer ton algérianité, tout simplement.
Faudrait peut-être... Ça confirme ce que je dis, c'est pas rationnel.
Faudrait peut-être assimiler les gens comme ils sont, c'est-à-dire en tant que Français, et il y aurait peut-être un petit peu de drapeau ou de quoi que ce soit.
Ça confirme comment ce que je dis, c'est pas du rationnel, vous avez dit inconsciemment. Donc c'est pas le conscient, c'est pas la raison qui l'a emporté. C'est une réaction à un rejet que vous avez identifié, que je connais aussi, vous inquiétez pas. Donc la problématique, c'est pas une question de rationalité.
C'est pas un Tunisien qui vous parle, hein.
Ah non, c'est un one to three.
Bon, merci Rachid, en tout cas pour votre invitation, Tarek.
Oui. Alors,
franco-français ou pas le problème?
Alors, justement, c'est d'abord franco-français.
Oui, d'accord. On est tous d'accord là-dessus.
Ouais. Et parce que de temps en temps, je vais faire de la raison, et de temps en temps, je vais faire comme les gens de banlieue. Donc, sur la raison, c'est un problème franco-français, parce que l'histoire profonde qui est dans les gènes, qui est apprise, j'allais dire, par transmission de mauvaises traditions, c'est les Français ont maltraité pendant 2 siècles les Algériens.
C'est vrai.
Et moi, j'ai assisté à des scènes dans un grand hôtel à Alger où le serveur Char Gamal, et vous êtes bien assis, s'est vengé d'un très grand journaliste français qui est venu à 7h15 du matin pour prendre son petit déjeuner. Moi j'arrive vers 8h, je vois le collègue que je connaissais assis dans le café, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit j'ai commandé, j'attends mon petit déjeuner. Le serveur algérien vient me voir, il me dit qu'est-ce que tu veux, je commande. 3 minutes après j'étais servi. Je lui parle en arabe. J'ai dit, le monsieur là-bas, ça fait 1 heure qu'il attend. Réponse, nous on a attendu 132 ans pour l'indépendance, il va attendre 2 heures. Je lui ai dit, mais t'es sérieux? Il me dit oui. Et je lui ai dit, ici je l'invite pour qu'il vienne à ma table. Ah, il me dit, s'il est à ta table, je le serve dans 3 minutes. Et j'ai appelé le collègue, j'ai dit, au fait, viens. Et là, il est venu, monsieur, avec tout sourire, qu'est-ce que vous... 3 minutes après, il l'a servi. Donc, il y a ce côté qu'on doit reconnaître. Sans négliger, mais sans qu'il soit explicatif. Il y a quelque chose qui dit, les parents, les grands-parents ont beaucoup souffert, donc si on peut se venger par une pichenette, ben on le fait.
Oui.
Et c'est pour ça que c'est un problème franco-français d'une manière beaucoup plus sérieuse et sociologique.
Et sommes-nous responsables?
Attendez, non, attendez. Par contre,
oui,
moi j'invite les politiques français et les salopards de commentateurs sur certains médias de retrouver les jeunes algériens, là je fais exprès, français à l'étranger, et comment il se comporte pour défendre la France.
Absolument.
Et c'est lui qui
absolument
n'a pas vu un jeune franco-algérien aux États-Unis, au Mexique, je sais pas où, au Qatar, pour défendre la France.
Absolument.
Et il a rien compris à la France.
Absolument.
Donc c'est pour ça que c'est aussi un problème franco-français, comme disait Ibrahim Hasmaïn, notre associé, il disait, l'Algérie, personne la critique, mais moi je la détruis. Et les Algériens se comportent comme ça avec la France. Nous, on a le droit de critiquer la France, mais à l'étranger, à l'extérieur, on défend la France parce qu'on est français. Et c'était, j'allais dire, je sais pas si c'est une maladie ou si c'est un truc qui passera avec les générations, mais c'est ce côté-là pour moi qui, d'une manière sérieuse, est franco-français.
Il y a 2 choses qu'il faut retenir dans l'histoire, si je peux prendre la parole là. D'abord, il y a la question du rapport du français à l'arabe. C'est-à-dire qu'ici, la France a perdu une guerre en Algérie, c'est sa dernière défaite, Donc c'est pas passé dans les anciennes générations. Il y a une transmission de la colère et de la douleur et de la violence qui s'est faite dans les deux côtés, hein, faut être clair.
Oui.
Et l'autre côté, il y a aussi un problème franco-français qui est un problème social. Je dis toujours, oui, pour rappeler quand même, mais oui, c'est pas anodin, que les Arabes, au sens large du terme, où qu'ils aillent dans le monde, sont considérés comme travailleurs, réussissent, ne connaissent pas l'échec ni la délinquance. J'étais en Angleterre, en Belgique, un peu partout. Il y a des difficultés, mais c'est pas ce qu'on connaît en France. Et en France, il y a un système qui les conduit systématiquement à être des incapables, des délinquants. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord, est-ce que la France est capable, enfin, une bonne fois pour toutes, d'arrêter de percevoir sa population d'origine étrangère comme étant étrangère? Parce que l'Algérien qui va aux États-Unis, qui parle français, c'est ce que disait le Nasser, est arabe celui qui parle arabe, et ben pour l'Américain, est français celui qui parle français. Il parle à un français, il parle pas à un arabe. Donc ça en dit long sur la réalité de la soi-disant intégration, assimilation, n'importe quel mot qu'on voudrait utiliser.
Bon, alors moi, par exemple, j'ai représenté la France dans certains secteurs de médias, notamment la fameuse radio numérique, le DAB, il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 5 ans, quand en France, c'était pas encore un sujet. Et quand j'arrivais pour prendre la parole, surtout au Canada, on me présentait comme le spécialiste français de la radio numérique en Europe. Et personne n'aurait eu à l'idée de dire qui est d'origine tunisienne ou qui est d'origine je sais pas quoi, et à l'étranger. Donc on est venu comme des Français qui parlent français, et nous sommes des délinquants ou des réussites françaises.
Amel est avec nous, elle nous appelle de Metz. Bonsoir Amel.
Allô?
Oui, bonsoir Amel.
Allô?
Oui, allô.
Qu'est-ce qui se passe dans le standard là? C'est quoi ce truc là? Oui Amel, vous nous entendez?
Moi je vous entends pas.
On est tous déchaînés aujourd'hui.
Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous entend pas?
Parce qu'on est déchaînés.
Je vous entends.
Allô?
Allez-y Amel, on vous écoute.
Oui, donc en fait je voulais juste intervenir par rapport à ce que vous étiez en train de dire, enfin surtout par rapport à ce qui s'est passé hier en tant que française d'origine algérienne.
Qu'est-ce qui s'est passé hier?
Ce qui s'est passé hier, c'est que j'étais quand même assez outrée et choquée de voir ce qui s'est... J'ai vu des images en direct sur Paris et franchement j'ai vraiment eu honte en réalité de ce qui s'est passé par rapport à... En fait on peut manifester sa joie, moi j'ai manifesté la mienne, mais sincèrement jeter des poubelles en plein Paris... monter sur les bus, bloquer la circulation. Je suis pas convaincue que ce soit l'image qu'on attend de... En tout cas, moi, j'ai eu honte dans la mesure où quand je vois les manifestations depuis des mois qui se passent en Algérie et de toutes les manifestations qu'on a vues, on n'a pas vu ces images. Donc, sincèrement, je crois pas que ça nous serve grandement de faire ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement, je pense que c'est une infime partie de la population algérienne qui a fait ça hier. Et franchement, c'est désolant de voir ce type d'image. Rien à voir avec ce qui s'est passé par rapport à la famille endeuillée... Je ne sais pas ce qui s'est passé concrètement. On a dit que c'était un Algérien.
C'est pas un Algérien.
Effectivement, apparemment, voilà. Mais même sans ça, en fait, c'est-à-dire que les images, moi, elles m'ont choquée hier. Elles m'ont outrée. J'avais honte. J'avais honte de voir ce qui se passait sur Paris. J'avais honte. Comment on manifeste sa joie en balançant des poubelles partout? C'est cette image-là. Moi, j'ai honte. C'est pas respectueux. On peut manifester sa joie, mais sans pour autant tout dégueulasser comme ça. On peut manifester sa joie sans monter sur les bus. Bien sûr, on peut klaxonner. On peut... Moi, je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça, mais balancer des poubelles, monter sur des bus, bloquer la circulation, non, je suis désolée, je suis pas d'accord avec ce qui est fait, dans la mesure où, encore une fois, ça nous dessert concrètement. Et ça, enfin, je sais pas, ces images, moi, en tout cas, elles m'ont outré hier.
On a bien compris.
Voilà.
Merci Amel, merci de votre appel.
Bonne fin de journée.
Merci à vous aussi. Merci. Du côté de Metz, restez bien fidèles à France Maghreb d'Où, le Grand Forum. Et chacun peut. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on lit, on entend, y compris dans la communauté aujourd'hui. Ces images qui ont effectivement perturbé beaucoup de gens. Mais est-ce qu'il est temps de se poser aussi la question de notre responsabilité, la responsabilité de la communauté, si tant est qu'elle existe d'ailleurs. Est-ce qu'on a une responsabilité dans ce qui s'est passé, dans ce qui se passe régulièrement et dans ce qui s'est passé par plus particulièrement hier soir? C'est quand même très compliqué à expliquer. Si on avait la réponse pour calmer tout cela, ça serait très facile. Le problème, c'est que ça a l'air beaucoup plus compliqué. Il faut revenir un petit peu en arrière dans l'histoire. Moi, je suis pas garanti que finalement le fait de rapporter ça à l'histoire algérienne, puisque la plupart des jeunes qui étaient là hier soir, ils ont aucune connaissance de ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas si c'est lié. Mais moi, je pense et je remets ça. Et peut-être que je me trompe. Encore une fois, on est là pour en débattre. Il y a eu un véritable problème de transmission. Et là, aujourd'hui, on en paye les dégâts.
Alors, d'abord, on va lancer non pas un message, parce que c'est un message parmi d'autres. Nous allons tous souhaiter, j'allais dire, deux choses qui sont contradictoires dans ma tête aujourd'hui. La première, c'est la victoire prochaine de deux équipes de l'Algérie et de la Tunisie dans leur demi-finale. Et je rajoute tout de suite derrière, en espérant à la fois une victoire et un comportement des supporters de la Tunisie, même s'il n'y a pas eu beaucoup de bruit, et des Algériens, puisqu'on va les appeler comme ça par simplicité, le 14 juillet. Parce que imaginez, 14 juillet, minuit, tir des feux d'artifice. 23h30, le match se termine. Ils font une demi-heure pour arriver sur les Champs-Élysées. Il y a 1,5 million de personnes qui regardent ce spectacle. comment vont tourner ces voitures algériennes, tunisiennes, je sais pas quoi, avec les drapeaux. On va les bloquer où? Est-ce qu'il va y avoir des bagarres entre ceux qui viennent profiter de la fête? C'est ça la hantise. Ça, c'est,
le... ça c'est... Oui, c'est une hantise qu'on partage tous, voilà. Pour le coup.
Je crois que la grosse peur, c'est pas tellement ça. Ils ont peur de ça, mais ça, c'est plus du spectacle. Ce qui leur fait vraiment peur, c'est l'arrivée des Gilets jaunes qui se combinent avec le 14 juillet, qui se combinent avec les festivités. Oui, oui. Et il y a un cumul de manifestations toute la journée. Il y a vraiment, c'est, pour le coup, ça va être vraiment explosif.
Mais les Gilets jaunes, c'est dimanche soir.
C'est dimanche. Ils font samedi dimanche. Et dimanche. Et dimanche, ils sont déjà 12 000 à confirmer, 90 000 à avoir l'intention d'y aller parce qu'ils parlent de la prise à la Bastille, une nouvelle prise. Donc on est sur quelque chose qui est quand même un petit peu explosif. Hein. Et la police française n'est pas inquiétée. Enfin, j'ai vu sur toutes les dépêches, ils sont plus inquiétés. Non, mais ils sont plus inquiétés par les gilets.
Oui, gilets jaunes.
Alors, non, mais parce que pourquoi, ça. Vous savez aussi.
Non, mais il y a toutes les fichiers.
Parce qu'il sera plus facile de taper sur les jeunes de banlieue à coups de bâton pendant 15 minutes.
Sur tafiam,
au début, pour régler le problème, que de taper pendant 15 minutes sur les gilets jaunes.
Non, non, mais.
Les gilets jaunes, il n'y aura pas avec la population.
Mais c'est même pas ça. C'est qu'en plus, dimanche, avec toutes les festivités qu'il va y avoir sur Paris, je pense que les policiers n'auront pas assez d'effectifs. Donc entre le
les gilets jaunes, la victoire algérienne qu'on souhaite,
exactement, plus les feux d'artifice, etc. Le 14 juillet, donc tout ça fait quand même un peu peur dans.
Après,
dans
il y a quand même le Sénégal et le Nigeria qui sont pas très nombreux en France. Si c'est qui emporte la victoire, le problème se pose plus.
Hein. Ah oui, bah ça je suis d'accord.
Ça, je suis d'accord.
Alors, ouais, mais attends, on n'est pas à l'abri d'Algériens qui descendent pour manifester leur colère.
Non, ils expriment jamais leur colère.
Bon, bah tant mieux. Alors donc les pachos aujourd'hui.
Gamal,
il y a plein de gens qui souhaitent la défaite de l'équipe algérienne.
Voilà, alors. Espérer la défaite de l'équipe d'Algérie et de l'équipe de Tunisie.
Pas l'utile, moi je veux la finale.
Ou alors on demande à la FIFA de faire jouer les matchs le lundi ou mardi.
Non, c'est en Égypte, ça marche pas comme ça.
Non,
ils veulent pas savoir.
On a un problème franco-français qu'on doit régler ici. Abdel est avec nous, bonsoir Abdel.
Bonsoir à tous. Moi je suis d'accord, je condamne, c'est une honte. Mais ne faisons pas de ces événements et de cet événement un événement exceptionnel. C'est le foot dans sa totalité qui est comme ça. Et je vais vous rappeler des faits beaucoup plus graves. Et ce qui vient de se passer hier, c'est de la gnognotte, à part cette femme qui est morte, mais ça n'a rien à voir. Rappelez-vous de ce Français de confession juive qui a failli se faire massacrer par les supporters du PSG ou un de club, et c'est un policier noir qui l'a abattu. Alors, ça c'est extrêmement grave, c'est arrivé en France, dans notre pays, des hooligans en Turquie, ailleurs, qui se battent, qui cassent tout, des Anglais en France aussi qui viennent, qui cassent tout, c'est pas que les Algériens, c'est le foot dans sa majorité qui est comme ça, et que ne faisons pas de cette chose qui vient d'arriver, quelque chose d'exceptionnel. Les services secrets français ont travaillé lourdement pour interdire la plupart des hooligans français à venir dans les stades de foot. Beaucoup sont interdits aujourd'hui. C'est un virus qui touche le monde du foot. Et on veut nous faire croire que c'est que les Algériens ou les Arabes qui foutent le bordel. Je sais que les médias français ont été énormément vexés de la violence des gilets jaunes et que pour rattraper ces fameux gilets jaunes, il va falloir beaucoup d'Algériens, beaucoup d'Arabes pour les rattraper dans tout ce qu'ils ont fait. Et à chaque fois qu'il y a un petit Algérien qui pète de travers, éventuellement vous avez les RMC qui se ramènent. Et je suis bien content de m'être foutu de la gueule de Monsieur Bourdin. Voilà.
Bon, merci Abdel.
Juste Christophe, si vous pouviez nous rappeler ou nous préciser ce qu'a dit ces jeunes sur cette bagarre entre juifs, skinheads et policiers français noirs.
Non, c'est parce qu'il y a eu un problème en marge d'un... Je ne sais pas d'ailleurs si c'était une confession juive. Mais c'était un match entre le PSG et...
On s'en fout qui d'autre.
Le Maccabi Tel Aviv.
Voilà, effectivement. Il y a eu effectivement des supporters, des ultras de Boulogne qui se sont attaqués à un des supporters de cette équipe israélienne.
Oui.
Et effectivement, il y a eu un mort. Voilà.
Et c'est le policier noir, je m'en
souviens. C'est un policier noir qui a tiré sur le skinette.
Oui, absolument.
Ouais. Non, mais. Parce que
ce qu'il faut rappeler... c'était dans un stade.
Oui, non, c'était en dehors du parc. C'était à la sortie du stade.
Il faut jamais oublier une chose. Moi, ça me fait rigoler parce que c'est vrai que là, il y a le coup de l'émotion. Maintenant, on va descendre un petit peu d'un ton.
C'est vrai, mais c'est vrai, vous avez raison.
Mais en vérité, il a raison, notre supporter.
Notre auditeur.
Mais supporter algérien, ça s'est senti. Il a raison, l'auditeur, sur une chose. Le stade Ezel en Belgique, c'est quand même des skinheads. On est dans la sauvagerie. Il y a eu quand même 76 morts, si je ne me trompe pas. Et là, c'est gratis. Ensuite, surtout, il faut se rappeler.
Il y a eu la même chose en Corse, mais c'était aussi une bagarre entre deux.
Voilà, avec l'effondrement. Ouais, l'effondrement. Et ensuite, il faut se rappeler un truc important, et là, c'est pour les Tunisiens que je parle. Quand les Anglais sont venus massacrer les Tunisiens à Marseille, quand il y a eu le match de Coupe du Monde, et que l'équipe d'Angleterre attaque la Tunisie, et que les skinheads commencent.
Enfin, de Marseille, je Oligan, très bien.
Et que ce sont les quartiers nord de Marseille qui viennent sauver. Donc les Algériens qui viennent sauver les malheureux Tunisiens qui venaient supporter un maître Bah, c'est gravissime. Ça, on oublie ça.
Non, c'est en 98, je me rappelle aussi d'un problème entre Russes et Angleterre.
Marseille. Angleterre-Tunisie.
Angleterre-Tunisie.
D'accord. Et ben, il y avait des scènes de guérilla dans Marseille.
Absolument. D'accord. Et c'est les quartiers nord qui ont empêché le massacre.
Ouais.
Et là, quand les quartiers nord calment les hooligans, Giskin, parce que c'est pareil, là, on n'en parle pas comme des héros.
Ouais.
C'est quand même assez particulier. C'est pour ça que.
Tu sais, moi, ce qui me rend triste dans tout ça, c'est que.
Qu'est-ce qui te rend triste?
Normalement, on devrait parler de la victoire.
C'est vrai.
Bah oui. Ils ont gâché tout ça.
Mais vraiment, hein, c'est, moi ça m'attriste parce qu'on est en train, on est en train de commenter quelque chose qui, voilà, malheureusement a gâché cette victoire.
Parlons de la victoire,
cette...
alors. Parlons-en.
Non mais sérieusement, franchement, quand finalement les auditeurs nous appellent et nous ramènent à la raison, à l'image d'Abdel.
Absolument.
Mais en fait, nous on tombe dans le piège de la surmédiatisation.
Bien sûr.
On est dans l'information continue en permanence. Tarek Mami peut le confirmer. On est avec nos portables. On est au fur et à mesure de ce qui se passe dans le monde. Voilà, on va sur Twitter, on a un petit peu la tendance. Qu'est-ce qui se passe quand on se lève le matin, vendredi matin, un 12 juillet, au lendemain d'une victoire algérienne? On voit ces images sur BFM TV, on voit sur Twitter, on voit ce torrent de haine. Et qu'est-ce qu'on se dit? Merde, quoi, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué qui? Et puis après, on retrouve un peu de raison au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des échanges, on calme un peu notre tempérament, on revient à la raison, et puis on s'aperçoit finalement, oui, c'est grave ce qui s'est passé, d'accord, mais de le relier finalement que à l'Algérie, ça serait évidemment que faire une énorme erreur.
À la France,
et qu'on a un gros problème ici en France avec effectivement des gens qui se sentent ni français ni algérien.
Puis on a un gros problème avec les médias qui ont tendance à surexagérer l'événement.
On tombe dans le piège.
Oui, ouais. Et puis il y a quand même, moi, ce que je trouve extraordinaire, faut quand même, maintenant on va revenir sur la victoire.
Ouais.
On va revenir sur la victoire des binationaux, on va revenir sur la victoire des Algériens d'Algérie.
Le pari de Jamel Belmadi.
Absolument, de Belmadi qui est extraordinaire avec les larmes de l'équipe. Un match vraiment qui était d'anthologie parce que l'équipe du faut quand même rendre hommage à la Côte d'Ivoire.
Un magnifique, extraordinaire.
Mais ça a été le plus beau match de la Coupe d'Afrique.
Franchement, oui, absolument.
Hyper dynamique, hyper fort. Et puis surtout un truc, en plein il faut se rendre compte ce qu'il y a dans la tête. J'ai entendu à Paris, et ça c'est plutôt, on en parlait tout à l'heure, du peu de présence et de mobilisation des Algériens de France, mais on a entendu des chants du Hirak en plein Champs-Élysées. Et ça c'est magnifique, et ça c'est une double victoire parce que c'est à la fois un pied de nez à le rejet que la France peut avoir des binationaux et un pied de nez au rejet que les Algériens d'Algérie, je parle des autorités, avaient des binationaux. Aujourd'hui c'est une consécration qu'il y a des binationaux qui sont de qualité et qui font des choses de qualité et que malheureusement deux trois éléments qui perturbent l'arabe qui cache la forêt pour le coup foutent la pagaille. Mais en réalité dans l'absolu c'est magnifique. Moi j'ai assisté à deux beaux matchs, la Tunisie qui est passée et ça fait plaisir quand même parce que j'aime les voir.
J'aime bien le quand même.
Non mais ça fait plaisir quand même. Non, on a du mal à y croire.
Hein. Il parle comme Valls, mais c'est pas grave.
Non mais c'est bien, mais on en discutera. On en discutera en finale.
Parce que Gamal, j'y crois.
Là, les 3-0 d'hier de la Tunisie va tout simplement rassurer toute l'équipe motiver toute l'équipe à aller jusqu'au bout. Donc Giresse là-dessus, bon, il a pris de la confiance aussi parce qu'on l'a vu qu'il était complètement désespéré. Ouais, mais il était désespéré, mais quand même là, on peut dire ce qu'on veut, mais il les a quand même emmenés en demi-finale.
Il a fait ça reste quand même, que
Madagascar.
Non, mais justement,
il y a plus de petite équipe.
Non, Gamal va plus vite la musique. Le coup de génie de Giresse dans cette Coupe d'Afrique,
c'est le gardien.
C'est le gardien.
Ah oui, extraordinaire.
Je l'ai trouvé excellent là-dessus.
Magnifique.
Et il a raison. Il a raison.
Parce que le gardien était blessé, n'était pas concentré.
Absolument.
Et le deuxième,
il a surtout fait une porte, quoi.
Et il est parti 5 fois.
Absolument.
Du bon côté de la balle.
Exactement.
Et c'est extraordinaire. Exactement.
Mais si. Et stratégiquement, je pense que s'ils l'ont mis, c'était pas pour rien.
Mehdi nous appelle de Paris. Salut Mehdi. Fais-toi une place.
Salut Mehdi. Il est algérien, Mehdi. Bonjour l'algérien.
On s'en fout de ce qu'il
dit. Je fais exprès.
On demande pas la nationalité.
Non, mais aujourd'hui, j'ai fait exprès, je vous dis. J'ai demandé l'autorisation.
Je suis algérien et tunisien aujourd'hui.
Et, t'es pas français? T'as oublié quelque chose. T'es pas français, Mehdi?
Aujourd'hui, je suis pas français.
Ah oui.
Non, aujourd'hui, non. Avec ce que je vois de nos compatriotes, nos confrères compatriotes, ce qu'ils nous envoient dans la tronche, excusez-moi du terme, non, aujourd'hui, je suis pas français. Je le serai demain.
D'accord.
Et bon. Pour le 14 juillet.
Inch'Allah.
Voilà, je le serai le 14 juillet, exactement. Non, en fait, je voulais revenir sur tout ce qui se passe là. En fait, moi, je suis parti par curiosité hier à Barbès, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas que des Algériens, il y avait des Chinois, il y avait des Français.
Des Chinois.
Il y avait des Roms.
Maintenant, on va les appeler les Algériens de coup. Les Algériens et leurs copains.
Non, mais j'ai rien compris. Il y avait des Renois, il y avait des Chinois, j'ai pas compris. Alors, je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et après, je me dis merde, mais peut-être qu'en fin de compte. Tu vois, en fait, ce drapeau, en fait, cette équipe d'Algérie, ou ce drapeau, ici en France, pour les jeunes en France, on manque de représentativité. On est inexistant.
Exact.
On est oublié. Exact. On est masqué. On fait tout pour nous étouffer. Et aujourd'hui, un grand jour comme celui-là, eh ben, on est représenté. Mais on est représenté à notre manière parce qu'on n'a que ça.
Ouais. Excellent. Merci Mehdi. Non, merci.
Excellent.
Merci beaucoup Mehdi. Dans un instant, en tout cas, tout ça, ça arrange bien les affaires d'une de quelqu'un en particulier. C'est François de Rugy.
Ah bah ça. Ah, ça.
À tout de suite.
France Maghreb 2.
Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Avec aujourd'hui Gamal Abina, avec Nasser Lagi, Tarek Mami, qui sont avec nous. Avec cette question du jour que l'on vous pose. Une mère de famille, donc de 42 ans, décède, renversée par un chauffard de 21 ans en marge de la célébration de la victoire algérienne à la Coupe d'Afrique des Nations. Le dispositif de sécurité d'encadrement d'après-match doit-il être renforcé? C'est la question que l'on vous pose. Et vous êtes 94% à dire oui sur Facebook, 74% sur Twitter. Le Grand Forum FM2, oui, renforcé, absolument. Voilà, alors, on en a évidemment largement parlé avec vous, au standard, avec nos débatteurs. Maintenant, il y a une autre affaire qui agite l'actualité aujourd'hui. Autre sujet qui fait l'actualité, c'est l'affaire de Rugy et les révélations qui s'enchaînent concernant les dépenses faites aux frais du contribuable par le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Est-ce qu'il doit démissionner? C'est la question qui lui a été posée ce matin sur RMC au micro de Bourdin.
Non, je n'ai absolument pas de raison de démissionner. Je l'ai dit au Premier ministre qu'il ne me l'a absolument pas demandé, d'ailleurs.
Y avez-vous pensé?
Bah, forcément, on peut penser à, en fait, tout abandonner, je vais vous dire. Quand on est dans ce cas-là, quand on est attaqué, matin, midi et soir, que tous les jours sortent des nouvelles choses qui sont fausses, eh bien, évidemment, on peut avoir envie de rester chez soi. On peut avoir envie de lâcher prise. Mais je ne le ferai pas, car je suis très en colère quand je lis un article qui prétend que j'occupe un logement social. Jamais de toute ma vie je n'ai demandé un logement social. J'ai loué un logement suite à une séparation. Je n'ai jamais profité indûment d'un logement social. Et je lis ça dans un article, je donne toutes les preuves à Mediapart. J'ai gardé toutes les emails, tous les échanges d'emails avec l'agence immobilière à qui j'ai loué ce logement. Alors, eh bien, c'est comme si je n'avais rien dit. On continue à raconter que j'aurais profité, que je profiterais encore aujourd'hui d'un logement social. Je donne toutes les preuves. Mais à quoi ça sert? Ça veut dire qu'il y a une machine qui est lancée pour m'attaquer. Il va y avoir, je vous dis, hein, aujourd'hui, demain, il va encore y avoir d'autres attaques, forcément, puisque maintenant on en est à inventer des choses.
François de Rugy, vous l'avez entendu, quasiment bordé l'arme ce matin au micro de Bourdin. C'est vrai que les révélations de Mediapart sont terribles. Logement social, on parle aussi de plein d'autres choses, hein, des dîners gastronomiques absolument effarants du côté de l'Assemblée nationale, avec également un sèche-cheveux. J'ai vu un sèche-cheveux en or, je sais pas quoi là. Est-ce qu'il doit démissionner?
Question, pourquoi il a fait démissionner son chef de cabinet?
Dites-nous.
Ah ben, il a fait démissionner son chef de cabinet.
Non, parce qu'elle avait un logement social.
Oui, qui est préfet.
Exactement, et qui était vide.
Qui avait un logement social, qu'elle payait. Et comme elle explique, c'est pas pour justifier, mais comme elle était nommée d'endroit en endroit, elle a fait le choix de garder ce logement social qu'elle payait pour que le jour où on la déplace d'un endroit à un autre, elle ait où dormir. Et lui, il lui dit, ça se fait pas. Et il exige qu'elle démissionne. Et elle a démissionné. Alors, quand on veut, pour moi, être monsieur moral envers les autres, il faut commencer par être moral envers
balayer
soi-même.
Devant sa porte,
et il faut commencer par dire, aujourd'hui, le ministre et son chef de cabinet, on leur reproche des choses qui font quelque chose, ils démissionnent. Je rappelle que monsieur Bayrou, que je ne porte pas tous les jours dans mon cœur, a démissionné parce qu'on a sorti qu'il était soupçonné d'utilisation de l'argent donc de l'Europe pour d'autres tâches. Donc on doit appliquer où?
Ça doit faire
pour tout le monde.
Frissonner les tâches.
Ce qu'on appelait à l'époque, il y a quelques années, la jurisprudence Balladur. Mm-hmm. Balladur a été Premier ministre. Il a dit, messieurs, ceux contre lesquels sort un article de presse, ils démissionnent. Et le jour où il gagne son procès, si on est encore au gouvernement, il revient à la place. Je ne veux pas de soupçons. Et aujourd'hui, les gens disent oui, mais pas moi. Donc, il doit démissionner pour moi. D'autant plus qu'il n'a rien à voir avec les écologistes et que lui-même a été opportuniste à plusieurs reprises de sa, de sa vie politique.
Voilà. Okay. Moi, alors, je rejoins complètement ce qu'il vient de dire Monsieur Mamy. Effectivement, moi, de Rugy, j'y crois pas une seconde. Alors, si effectivement il y a du mensonge, qu'il aille porter plainte pour diffamation et point barre.
Est-ce qu'on peut parler du rôle de Mediapart aussi, qui n'hésite pas à surenchérir à chaque fois?
Il faut qu'il attaque tout simplement. Je terminerai sur un truc. Oui, excuse-moi, Gamal. De Rugy, et il a bien fait de le rappeler, Monsieur Mamy. Est-ce qu'il faut rappeler à Monsieur De Rugy que quand il avait fait son engagement au sein des primaires des socialistes, où il avait dit que je respecterai mon engagement et que je soutiendrai le candidat qui sortira de cette primaire, mais qu'il a rien respecté, donc pour moi ça ne peut être qu'un menteur et je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas faire semblant de dire oui, il a peut-être raison. Donc il doit démissionner. Ah, qu'il démissionne, bien sûr.
Il y a deux choses. Là, c'est bien de souligner ça. D'abord, quand quelqu'un s'engage et qu'il donne une parole, s'il n'y a pas de parole publique, c'est pas la peine. C'est-à-dire que là, tout est caution, sujet caution dans son propos. Ensuite, sur la question Mediapart, évidemment qu'il démissionne, ça va de soi. Sur la question de Mediapart, si c'est avéré, et Mediapart, jusqu'à présent, ils n'ont jamais, il faut le rappeler, jamais perdu un procès. C'est-à-dire que le travail d'Arfi et de son équipe prouve que la crédibilité pour l'instant, il n'y a que l'affaire Sarkozy qui n'est pas encore tout à fait tranchée, la crédibilité
et
pour l'instant...
Et l'affaire Tapie, où le tribunal a décidé à notre choix, sans dire que ça n'a pas existé.
Voilà, donc on n'est pas sur le fond, on est sur à la limite Tapie, c'est pratiquement, on a l'impression que c'est presque un sauvetage pour sa vie, mais bref. Ça pour dire que Mediapart, pour l'instant, n'a jamais été inquiété parce qu'ils font leur travail de journaliste d'investigation et ils le font très bien. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui en France, le seul organe de presse objectif, indépendant et qui travaille sincèrement et sérieusement, qui est une sorte de comme à l'époque du New York Times, des grands journaux américains.
Et du monde des années 80.
Mais enfin, c'était encore le même arbitre qui était à la tête, ça restait encore Eddie Plenel. Le seul organe de presse en France indépendant, sérieux, qui fait son travail, qui n'est pas condamné, il faut le rappeler, c'est Mediapart. Donc quand il y a de la fumée quelque part et que c'est Mediapart qui montre la fumée, on peut penser que quelque part, il ne se trompe pas.
Absolument.
Bon, alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'accusations, logement social, des dîners. Alors c'est vrai que là, par exemple, on nous sort des caviars, du champagne à outrance, mais attendez.
Il n'y a rien d'illégal là-dessus.
Il n'y a rien d'illégal là.
Oui, il n'y a rien d'illégal, je suis d'accord. Mais pour la morale.
À Mediapart, c'est effectivement de sortir des choses avérées ou qui s'avèrent en tout cas vraies.
Qui sont légales, mais immorales.
Mais voilà, c'est d'en rajouter une couche, quoi. Je veux dire, voilà, c'est tout le temps d'en faire un maximum pour discréditer quelqu'un. À croire que Edoui Plenel, pour faire simple, a des comptes à régler avec le pouvoir en place, franchement.
Faut être honnête, sur Edoui Plenel, là, pour le coup, j'ai rencontré d'ailleurs sur la question algérienne. Edoui Plenel, par exemple, il est bon sur l'Algérie, il est pas bon sur le Maroc parce qu'il parle pas du Harek marocain. Bon, déjà, on se demande pourquoi il fait ça. Il est reçu par les autorités marocaines, il prend pas de risque. Mais, c'est vrai, moi, je suis sincèrement, c'est désolant. Parce que si Edoui Plenel est cohérent, il est cohérent avec tout le monde. Mais par contre, en France, là, on peut pas lui retirer cette cohérence. Edoui Plenel, il cartonne à gauche, à droite, au centre, partout. C'est-à-dire qu'il fait son travail de journaliste. Et là-dessus, on peut pas dire, Edoui Plenel a des comptes à régler avec le pouvoir. Il a des comptes à régler avec la morale politique, et la morale politique aujourd'hui est absente.
Il a la morale, lui.
Mais il n'y a pas de morale, c'est un journaliste. Il est là pour travailler.
Oui.
Mais il fait de l'argent.
On peut fouiller un peu dans le passé de Plenel, si ça vous dit.
Ce serait intéressant, mais au-delà de ça,
soit sur ceux qui attaquent sa fille indirectement.
Oui. Mais au-delà de ça, il y a une chose qu'il faut pas oublier. Deux jours après le déremboursement de l'homéopathie, les types, ils savent du caviar. Faut quand même pas délirer. On ne donne pas des leçons au peuple quand on s'en rase à plein régime.
De Rugy, il te dit, j'aime pas le caviar. Le champagne, ça me fait mal à la tête.
Il l'a servi,
exactement. Mais en même temps, ce qui me désole dans tout ça, c'est qu'il faut voir aussi la situation en France. Quand on voit le mouvement des Gilets jaunes, ce que ça a donné. Quand on voit la crise qu'on vit en France depuis ces derniers mois, excuse-moi, c'est pas forcément le meilleur exemple qu'il faut donner à la population.
Alors la réponse que j'ai envie de te donner, c'est 23% Macron aux européennes.
Oui, mais avec combien d'abstention? Oui.
Alors je rajoute juste un point de détail de l'histoire, comme dirait l'autre.
En détail, c'est dangereux.
Justement, sans que ce soit.
Mais faites attention à ce que
vous dites. Il est trop à droite aujourd'hui. C'est inquiétant, hein.
La pénalisation, ça sera que pour aujourd'hui.
Okay.
Je vous rassure. À un certain moment, donc, il y avait une absence de présidence de l'Assemblée nationale française, et on devait nommer un président intérimaire. Et il y a le mari de Madame Alliot-Marie qui s'est présenté au poste. Et je vous rappelle que pour l'histoire, on lui dit OK à une seule condition. Vous savez laquelle la condition?
Non.
Vous touchez pas à la cape du vin de l'Assemblée nationale parce que c'est devenu une tradition. Le mec, dès qu'il arrive, président de l'Assemblée, la seule chose, la première chose qu'il fait, il va visiter cette cape et choisit les moutons Rothschild qui sont encore là pour les consommer à la première occasion. Donc celui-là,
bah, je vois un dressing à 17 000 euros. Est-ce que franchement, il n'y a peut-être pas moyen de mettre en place des sociétés dites privées qui pourraient faire l'évaluation et trouver des entreprises qui soient capables de faire des travaux à des prix raisonnables quand même. Mmh. Un dressing 17 000 euros, excusez-moi, c'est plus un dressing, hein, ce prix-là.
Non, non, c'est un château.
Non mais non, voilà, et tout ça, c'est vrai que ça la coupe politique, enfin le politique en prend un coup à chaque fois. Je veux bien dire, ces gens qui viennent nous rappeler, nous faire la morale,
absolument,
et les donneurs de leçons à longueur de médias et d'interviews,
perdent leur crédibilité,
totale. Je veux dire, Macron aujourd'hui, il doit être mal quand il voit tout ça. Bien franchement. Sûr. Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire aux Français, je veux dire, quand on voit que dans son gouvernement, t'as des gens aussi, et c'est peut-être pas le seul de Rugy, il y en a plein d'autres aussi, qui profitent effectivement de notre argent.
Mais ils sont complètement
dans des
dépassés,
pays, dans des pays scandinaves, pour une sucette achetée, tu démissionnes, mon vieux. Voilà.
Alors après, c'est peut-être.
Non, la, mais... femme la, plus... la femme la plus puissante d'Europe.
Non, mais voilà.
La femme la plus puissante d'Europe, qui est malheureusement malade aujourd'hui.
Oui.
Bien qu'elle raconte des histoires. Elle l'a fait à Mitterrand. Mais bref, dans tous les cas de figure, Madame Merkel, si vous connaissez sa vie, c'est extraordinaire. D'abord, elle vient de l'Est, c'est une berlinoise de l'Est, donc c'est une ancienne coco.
Fille de prêtre.
Absolument, fille de prêtre. De prêtre, elle n'a pas eu d'enfant, je crois, il me semble. Mais surtout, ce qui est particulier chez elle, c'est qu'elle vit dans un tout petit appartement à Berlin. Elle n'a pas de garde du corps, elle fait ses courses elle-même. C'est incroyable, le dénuement.
C'est incroyable en France.
Ben jamais, c'est des rois. Elle a l'impression qu'on a coupé la tête du roi pour mettre un nouveau roi.
Ouais, ouais.
Je veux dire, c'est quand même gravissime. Comment peuvent-ils avoir des fonds spéciaux? Comment peuvent-ils s'octroyer des caves à vin? Enfin, c'est quoi, c'est des rassemblements nationaux avec des caves à vin?
Alors, je vous rappelle dire qu'il y a une nouvelle affaire qui sort pour M. Campadélis.
Oh, ben, c'est un classique chez lui.
Avec 18 autres députés. Monsieur Campadélis, que c'est pas à sa première, ouais, c'est pas de la diffamation. Il est déjà passé par l'affaire UNEF il y a quelques années. Et puis eux, ils utilisaient l'argent, la fameuse argent pour payer les permanences politiques. Ben, ils partent en voyage, ou ils achètent des voitures, et ils disent j'ai pris un peu d'argent, lui ou quelqu'un d'autre, un peu d'argent pour compléter l'achat de ma voiture.
Le pauvre.
Alors que dans les pays nordiques, cher Christophe, vous allez à l'hôtel, vous payez avec carte bleue, vous faites rembourser, en vous disant, selon les conditions, c'est un hôtel 2 étoiles, 3 étoiles ou 4 étoiles. Si vous
on
invitez,
pas cette culture, nous.
Non mais si vous invitez le ministre de l'autre pays, vous allez dans un hôtel tous les deux. Là, vous avez droit à 4 étoiles.
Ouais.
Parce qu'en fait, vous avez un invité étranger.
Bien sûr.
Sinon, dans tous les cas, c'est une espèce d'ibis. C'est le maximum. Vous voulez prendre le 4 étoiles, le 5 étoiles, vous payez la différence.
Mais Macron avait même promis d'ailleurs de réduire le nombre de députés et de sénateurs. On attend toujours. Oui, mais on attend quoi, la fin du mandat?
Non, mais ça viendra.
Donc,
ça on attend de voir. Hein.
Non, il fera pas.
C'est ce qu'il avait dit Hollande pour le droit de vote des étrangers.
Tarek, je sais que tu seras pas d'accord avec moi, mais depuis cette histoire Benalla et les Gilets jaunes, le quinquennat de Macron est terminé. Voilà.
On en parlera pour l'élection prochaine.
Il ne pourra rien faire, c'est fini.
Il sera reconduit.
Peut-être qu'il fera des choses quand il sera réélu, s'il est réélu en 2022.
Non, il sera reconduit.
Mais jusqu'en 2022, c'est fichu.
Le chômage recule, il va gagner.
Oui,
bien sûr. J'ai aucun doute sur sa réussite.
Oui.
Il s'est maintenu avec une force quasiment.
Non, mais attends, t'as pas compris ce que je t'ai dit. Il y a une différence entre effectivement une réussite et une marge de manœuvre. Il n'a plus aucune marge de manœuvre aujourd'hui.
Vous savez que moi, je l'appelle le magicien depuis ces élections.
C'est vrai.
Et je dis le jour où pour moi il sera plus magicien, je dirais ici à l'antenne qu'il n'est plus magicien. Pour le moment, il est magicien. Même le journal Le Point lui rajoute un titre, le funambule. Est-ce que c'est qu'un funambule?
Oui,
il est toujours sur le fil. Il tombe ni à droite ni à gauche, il continue à avancer.
Oui, c'est un magicien qui arrive à avoir une situation sociale des plus dramatiques aujourd'hui dans ce pays. Plusieurs milliers de personnes dans les rues.
On ne le glorifie pas. Mais sociologiquement, j'attends le livre.
Ça n'empêche pas qu'il est intelligent et qu'il est
en termes de stratégie.
Il est coupé de la réalité, Macron.
J'attends le livre qui nous explique sociologiquement comment un type, un président de la République, avec les gilets jaunes tous les vendredis, se retrouve au même degré au nombre de députés à 23% aux européennes.
Ouais, c'est extraordinaire.
J'attends l'étude sociologique. Elle est toujours pas venue.
Non, mais il y a une grosse assise populaire, Macron, c'est évident.
Non, mais attendez, Tarek, vous n'allez pas faire mine comme ça de découvrir ça. Vous oubliez quand même un paramètre extraordinaire, c'est l'abstention. Et tous ces gens qui, justement, au travers de cette affaire des Rugy et bien d'autres, sont dégoûtés de la politique et ne veulent plus aller voter. Donc, vous avez effectivement ce socle qu'il a conservé et qui a continué de voter pour Macron. Mais si tout le monde vote, tous ceux qui se sont abstenus, Macron ne serait jamais passé.
Jean-Christophe, une petite question de football.
Ouais.
à la fin d'un match.
Oui.
L'arbitre qui... Qu'est-ce qu'on dit?
On dit qui
a gagné le match.
Ouais, non mais d'accord, mais, c'est
excusez-moi. Et c'est lui qui commence à dire, mais t'as vu, mais
t'as
l'arbitre, mais
il y a
un penalty, de quelle manière?
Ouais.
On s'en fout.
Ouais.
En politique,
ouais,
comment
ça prendre en considération, Tarek, sinon ça n'a pas lieu dans votre analyse.
Bah,
faut prendre tout en considération.
Ceci, mais en sport comme en foot,
ouais,
pour beaucoup de gens, l'essentiel, c'est le résultat en arabe et en tunisien, on dit El Abra Ben Netesh.
Mais j'allais dire Macron-Trump, ils gagneront tous les deux.
Ouais, mais faut regarder aussi les dégâts qu'ils font.
Oui,
aussi,
oui, c'est monstrueux.
Et ça, c'est monstrueux. Quand on regarde, là, le problème qu'on a sur la question de l'Algérie, c'est que parce qu'il y a aussi la banlieue qui est abandonnée.
Bien sûr.
Et ça, faut pas négliger.
Ça, c'est pas Macron, hein, pardon de le dire, mais c'est pas Macron.
D'accord. Non, Macron est responsable aussi.
Il a contribué.
Donc Chirac, Hollande.
Non, il faut revenir en avant.
Il est
Mitterrand.
Mitterrand. Il n'a aucune marge de manœuvre.
D'accord.
Macron est surendetté, le pays est surendetté. Moi, ce que je reproche, c'est pas la banlieue, parce que la banlieue, c'est foutu. Faut être très clair, la banlieue, pour réparer les dégâts qui ont été occasionnés là-bas, il va falloir des décennies. En revanche, Macron, le problème, c'est que quand il arrive, il dit, ça coûte un fric dingue, les services sociaux. Ça fait peur. Parce que là, il tape vraiment sur les pauvres et les plus fragiles. Et ça, c'est sa responsabilité. Parce que quand il commence à serrer la vis au niveau de la pauvreté la plus extrême, quand il dérembourse les médicaments, quand il commence à revoir tous les systèmes de santé, quand il revoit l'histoire des APL, enfin, chaque fois, tout ce qui est amortisseur sociaux, ce qui fait que les gens ne se suicident pas, il est en train de les faire sauter.
Non mais Gamal, quand tu regardes bien que quand tu regardes l'État et la banlieue, ils sont complètement, il n'y a plus de lien, il n'y a plus rien.
Absolument.
Donc quand je dis qu'il y a une responsabilité, c'est qu'on se rend pas compte, mais dans 10 ans ou dans 5 ans, ça risque de péter.
Oui, je suis d'accord.
Et d'ailleurs même bien avant.
Ce qu'on a connu en 2005, ça risque effectivement de se reproduire. Mais
absolument.
En deux fois pire. Hein.
Ouais. Et pas, dans pas très longtemps hein, d'ailleurs.
Et ça a déjà pété.
Ça va commencer.
2005, c'était ce qu'on appelait les émeutes, que j'appelle donc les révoltes, puisque c'est une révolte populaire.
Qui ont été manipulées.
Réprimées.
Qui ont été manipulées.
Oui, il y a beaucoup de choses.
Par Sarko.
Oui, évidemment,
parce qu'il voulait devenir
absolument président.
Il a flingué Sarko, il a allumé l'incendie. Oui. Il a laissé le Premier ministre
à l'époque
nettoyer les poubelles en établissant le couvre-feu, mais je rappelle que 2005 c'est les révoltes des banlieues.
Sarkozy
2015, c'est la Kalachnikov.
Oui,
mais 2015, 10 ans plus tard, Kalachnikov dans les salles. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la réaction de violence extrême est arrivée à la suite des banlieues. Mmh. On ne fait pas de lien entre les révoltes des banlieues et les Kalach, mais je suis désolé, c'est le cas. Il y a des gars qui peuvent empêter.
Les banlieues et les gilets jaunes aujourd'hui. Alors que c'est une autre façon.
C'est une autre expression. C'est une nouvelle expression. Mais ce qui fait, pas peur à
Macron. Gamal, quand on découvre aujourd'hui à la télévision, samedi après samedi, la violence policière sur des petits blancs, pardon de parler comme ça, là, les gens s'interrogent. Commence à sortir des critiques, etc. Quand c'était en banlieue, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, les violences policières en banlieue, ça remonte à 30, 40 ans.
Mais le problème, c'est que
personne sort de plus. Et ces mêmes gens qui se sont fait tabasser par la police disaient, oh bah c'est bien fait pour eux, ils ont bien cherché.
Ouais, je suis d'accord, mais une chose importante. C'est très important de le souligner. Le problème des gens, ils ont oublié que la révolution française, c'est pas faite sur la promotion de l'égalité, ça c'est pas vrai, c'est un mythe. La révolution française, c'est faite sur la peur du gendarme. C'est-à-dire que ce qui a fait tenir ces différentes restaurations de la République, c'est la peur du gendarme. La peur du gendarme, il y a 40 ans, vous vous rappelez, vous êtes suffisamment âgé pour vous rappeler ça. Moi, c'est en 70.
J'ai
assez lu. Oui, comme moi, je suis vieux. Moi aussi. Non, je parle pas de la Révolution.
Ça y est, c'est le club des seniors. T'as vu, ça sert. Les seniors entre eux, tu vois.
Je te jure.
La chanson, Pascal Sevran.
On a eu les mêmes chansons. En 70, je me rappelle, la police tapait pas sur les banlieues, on était trop petits. Par contre, elle tapait sur les Français et méchamment.
Ouais,
et on appelait ça la violence policière avant nous. Hein.
Ouais.
Et les gens oubliaient qu'il y avait beaucoup, ce qu'on parlait à l'époque des bavures, mais combien de Français mouraient à la suite de violences policières.
Il n'y avait pas de la police.
Gamal, la crainte aujourd'hui de l'État, c'est qu'il y ait un accord entre la banlieue, et les gilets jaunes. Là, c'est...
Pour le moment, non, mais ça va arriver.
Ça risquerait de se rapprocher très rapidement, d'ailleurs. Il va y avoir une convergence.
Sur ça, en fait, cher Nasser.
Bien près du micro, monsieur Mamie.
Oui,
pour un homme de radio, quand même.
Oui, excusez-moi, Nasser.
Pour un créateur.
On fait ce qu'on peut. En fait, les études sociologiques parlent des classes populaires, des classes travailleuses et de monopole de la violence de l'État. Et donc c'est toujours les plus pauvres, les plus travailleurs qui sont dedans. Ce qu'il faut rajouter à cette analyse classique marxiste de l'histoire de 1789, j'allais dire à 1962, et quand j'ai dit 62, c'est l'indépendance d'Algérie, c'est que vous y rajoutez une dimension ethno-religieuse qui n'existait pas auparavant. Et donc vous avez un approfondissement de la souffrance de ceux qui souffrent et de la violence de l'État au-dessus qui viennent se rajouter.
Oui, c'est vrai.
Et en même temps, vous avez cette France d'aujourd'hui qui permet à ceux qui sont issus de ces communautés nouvellement françaises, dès qu'elles ont un peu de sous, elles quittent elles-mêmes les banlieues pour aller acheter un pavillon.
Absolument.
Donc il faut toujours avoir, pour terminer raisonnablement, cher Christophe, cette vision globale, qu'il y a les déterminismes, qu'il y a l'habituel, et qu'il y a dans l'habituel l'exceptionnel, c'est-à-dire que ceux qui viennent, 30 ans après, ils comprennent comment ça marche, et ils quittent les banlieues pour aller s'installer ailleurs, et ils se mettent à mettre leurs enfants dans les écoles privées catholiques pour leur offrir l'avenir de ceux qui regardent à la télévision.
Vous me tendez la perche, école privée, on peut faire le résultat de Averroès, apparemment il a été bon encore cette année, Tarek.
Ah oui, super, il a été beau, et donc on devait avoir le patron, on l'aura peut-être la semaine prochaine pour qu'il nous le commente, mais il est classé 6e.
On parle du lycée privé Averroès à Lille.
À Lille, voilà. En clair, aujourd'hui, il y a 3 lycées musulmans qui méritent ce nom et qui tournent. Il y en a un, donc le premier et le meilleur d'entre eux, c'est Averroès à Lille. Le second, c'est... Alors le second et le troisième, je les mets à égalité, c'est El Kendi à Lyon, et notre ami Mehdi Chebaïki pourra en parler mieux que moi, et le lycée Ibn Khaldoun à Marseille, et ça, on a un partenariat avec eux, on l'a visité. Et donc, aujourd'hui, quelque part, j'espère qu'on ne va pas rentrer dans la course au lycée comme on est rentré dans la course aux mosquées.
Oui, ça c'est clair.
Parce que quand on est rentré à la course aux mosquées, chacun voulait sa mosquée dans sa ville, après dans son quartier et après dans sa rue. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers chacun son lycée, alors qu'aujourd'hui, à Averroès ou d'autres, ils ont l'internat, et j'allais dire, ils ont une capacité, et pourquoi pas avoir 3, 4, 5 grands lycées à Lille, à Paris, il n'y en a pas, à Lyon, à Marseille, peut-être à Bordeaux.
Ils sont sous contrat à Averroès ?
Oui, non, mais ils ont tout. C'est-à-dire, c'est comme
les lycées, quoi.
C'est des vrais lycées, comme les cathos, comme les juifs, comme les...
Ça coûte pas trop cher, quoi.
Non, mais ça coûte pas très cher. Et les profs sont payés par l'État.
C'est excellent.
Voilà. Et donc, il faudrait peut-être se contenter, j'allais dire, bon, je vais exagérer, d'une dizaine de grandes villes, pour que dans chaque région, on ait le bon lycée et qu'on ait les bons résultats. Alors, 6e au niveau du baccalauréat, et je crois qu'il a fait passer une centaine de personnes en brevet libre, dont près de 90% ont réussi alors qu'ils n'étaient pas scolarisés.
C'est
quelque chose d'extraordinaire.
On en parlera avec Amar Asfar, donc il sera peut-être avec nous la semaine prochaine. Cher Tarek, vous vouliez nous parler de votre escapade du côté de Tanger au Maroc.
Je ne m'y attendais pas, mais j'ai été à Tanger presque par effraction, presque par, je dirais pas opportunisme, mais par obligation médiatique qui s'est imposée à moi, puisque j'étais en Tunisie pour représenter notre radio France Maghreb 2 à l'ASBU. L'ASBU étant l'association de toutes les radios publiques du monde arabe. Et donc France Maghreb 2 a été invitée cette année, elle a eu son stand et on a présenté le travail de France Maghreb 2 à toutes ces radios publiques du monde arabe. Et au retour, donc Tanger Med 2 m'appelle, je me rends et là je découvre un complexe portuaire, une fierté marocaine, peut-être maghrébine, et je dirais à la fin pourquoi maghrébine. Alors, il se trouve que quand je débarque à Tanger, il y a une nuée de journalistes qui débarquent en même temps, en gros une centaine, radio, télévision, presse écrite, web, qui viennent de partout dans le monde. Il se trouve que quand on est sur place, le Maroc joue donc son fameux match de la CAN et se fait éliminer. Et comme l'accident de Montpellier hier, tous ceux que je rencontre, plus les réseaux sociaux, parlent plus de la défaite du match que de l'inauguration de Med 2, qui est le port.
Il vient d'inaugurer Med 2 ?
Hein ?
Il vient d'inaugurer
Med
2 ?
Oui, oui,
c'est l'extension.
L'extension. Ouais. Alors, et quand on découvre Tanger, alors, on va découvrir quelque chose qui nous faisait rigoler, nous, sur le monde arabe et sur les promesses des présidents et des rois. Il se trouve que le roi du Maroc a fait un discours le 17 février 2003 pour dire qu'il voulait faire de cette région un développement régional intégré à la réalité donc du monde pour qu'elle puisse concurrencer les autres ports. Tout le monde a rigolé, dit bon, on a l'habitude du côté, les rois, les souverains et les présidents parlent de ça. Et quand on va donc en 2019, en clair, les travaux ont commencé en 2007, donc au moins d'une décennie, on se retrouve avec quelque chose d'extraordinaire, avec on a eu droit donc à la projection de films de réalisation, nous avons visité les installations, nous avons pu effectuer des interviews de différentes personnalités, et nous découvrons effectivement ce qu'on pourrait appeler facilement une réalisation qui fait la fierté des Marocains, puisque le discours des rois de 2003 est devenu une réalité en 2019. Et ça, c'est très rare dans le monde arabe et dans le monde dit musulman. Et donc, c'est assez rare pour qu'on puisse, lui rendre hommage. Peut-être pas au roi, mais au peuple marocain qui a fait, donc, tous ensemble ce travail. Et aujourd'hui, donc, vous avez un pays et une ville, Tanger, qui dessert, qui est connecté à 186 ports à travers le monde, qui touche 77 pays, qui devient le premier port de la Méditerranée, elle déclasse El Jazeera, la première port en Afrique, et il déclasse Durban en Afrique du Sud, et il dépasse donc le nombre de bateaux à conteneurs qui traversent le canal de Suez. Et aujourd'hui, donc, c'est un hub logistique mondial qui est situé sur le droit de Gibraltar. Il est à 14 km de l'Europe. Il a la croisée de routes maritimes, donc majeures, entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Et il relie dorénavant tout ce qui traverse l'océan Atlantique et la Méditerranée, et donc les continents américains, européens, africains et l'Asie. Mon article sur le site de France Maghreb 2 donc détaille, mais je donnerai les trois chiffres les plus importants. C'est le premier port de la région, le premier port de la Méditerranée, le premier port d'Afrique, 75 000 emplois créés sur place, 700 000 camions tirs, projection de 7 millions de passagers, 400 000 mètres carrés de surface couverte et une centaine de sociétés internationales installées, Renault et autres. Et il est co-géré avec le premier armateur du monde, la société nordique Maersk.
Merci Tarek, à retrouver en détail sur le site www.francemaghreb2.fr.
Je termine, cher Christophe, en disant c'est peut-être une fierté maghrébine. Imaginez une sérénité politique dans cette région.
Ce serait magnifique.
Est-ce que ces pays seraient capables de faire tous ensemble?
Je vous mets face à face dans un instant pour le quiz. Le grand forum pour les quelques dernières minutes qui nous restent avec aujourd'hui Gamal Abina, Tarek Mami et Nasser Lajili. C'est l'heure du quiz, messieurs dames. C'est parti, j'ai pas beaucoup de questions, j'en ai 5.
Ah bon?
Mais ça va être rapide et franchement, elles sont. Bon. Non, elle est pas là, Audrey. Alors, première question que je vous pose. Citez-moi au moins deux pays qui ont obtenu leur indépendance de la France le 12 juillet 1960.
Bénin.
Alors attends, Bénin.
Bénin et Côte d'Ivoire peut-être.
Côte d'Ivoire, je dis oui. Bénin, je dis non.
Non, alors Bénin. 12 juillet 60.
Ouais.
Le Tchad.
Le Tchad. Voilà. Côte d'Ivoire, Tchad.
Je pensais à l'ancien Dahomey, je sais pas.
Exact. Non, non, vous avez raison.
C'est ça?
Ouais, il y a Dahomey.
Parce que je pensais à l'ancien Dahomey, mais comme je
sais plus. La Haute-Volta aussi.
Voilà, comment je sais plus.
Il y a le Congo.
Le Congo,
le
Congo de Brazza.
La Centrafrique.
Ben Ali. De Gaulle a fait un gros lot ce jour-là.
Comment ça, Ben Ali?
Non, mais c'est parce que c'est Ben Ali qui a redonné la truc. Non, c'est De Gaulle. Je fais de la provoque aujourd'hui, je vous ai dit, Christophe.
Faites attention, Tarek. Alors, deuxième question. Quelle ville, européenne fut divisée en 4 zones le 12 juillet
1945? Berlin.
Bonne réponse.
En 4 zones?
4 zones.
Je m'en fous de la journée, mais ça peut être que Berlin.
Alors ça, c'est une question rapidité. Quel pays remporte la Coupe du Monde en 98?
France.
C'est gamin.
Égalité à 3 alors. Oh, les 3 ont demandé en même temps. Donc, question qui se passe.
C'est bon, non, mais c'est une question de rapidité pour voir si vous suivez. Ouais. Je cherche un homme politique français, messieurs, qui fut Premier ministre de la France, mais également candidat à l'élection présidentielle de 2002, né le 12 juillet 1937. Non.
Non, Jospin.
Jospin. Excellente réponse de Tarek Mami. Dernière question. Alors là, celle-là est plus dure. Quel pays remporte la petite finale à la Coupe du Monde 2014 en battant le Brésil?
L'Argentine?
Non, c'est pas l'Argentine.
C'est pas l'Allemagne?
Non, c'est pas l'Allemagne.
L'Italie. Donc la France?
Non, c'est pas l'Italie, ni la France.
La petite finale?
La petite finale en 2014.
La Russie?
Non.
Portugal?
Non. Angleterre? Pas de Portugal, ni Angleterre.
Il reste rien du tout. La Tunisie?
Yougoslavie. Non, mais non.
Pas Yougoslavie, là.
On parle de petite finale.
Voyons. Ah, c'est pas la Corée? Pas la Corée, comment ça s'appelle?
Celle
qui a perdu contre la France?
Le Japon?
Non, celle qui a perdu contre la France en finale.
Je parle de la petite finale.
Oui, celle qui a perdu contre la France à la dernière finale.
Corée du Sud non plus.
Non. Comment ça s'appelle? Le pays européen.
Mais oui, Grèce. C'est un pays européen. C'est pas la Grèce.
Non, c'est le pays coupé en trois de Yougoslavie.
C'est la Serbie.
L'autre. Les, c'est le pays coupé en trois.
Monténégro.
Non, c'est pas la Croatie. C'est bien, c'est un peu plus près d'ici.
Ouais, ici.
Ouais.
L'Espagne.
Bah, l'Italie, avec l'Italie qui n'a pas été citée.
Non, c'est pas l'Italie.
Alors on va faire pas Turquie, pas c'est,
l'Angleterre.
Pas,
mais non, mais pourquoi vous allez si loin? À côté de la Belgique.
Belgique, Pays-Bas, Pays-Nord.
Voilà. Là, enfin.
Christophe, ça vous comptez pas le point parce que c'est plus qu'un 10. Vous avez tout donné, tout l'indice.
Bah ouais, mais attendez.
C'était long.
Bon, qui a gagné? J'en sais rien. En fait, tout le monde. Tout le monde a gagné.
Jacques Martin.
Bon. Moi, j'aime bien quand on gagne tous le vendredi.
Ouais, c'est bien.
Oui, c'est ça.
Le jour du Seigneur.
Juste un petit mot avant de partir. Vraiment, les gars, on espère évidemment cette victoire tunisienne et algérienne.
Et on espère
dimanche.
Derrière.
J'ai une question. Calmez-vous, quoi.
Un comportement. Une question. Voilà.
Quel est le seul pays au monde à avoir un slogan pour son équipe de foot? L'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie.
Oui. Alors, soyez digne du drapeau.
Alors, ça, je ne veux pas vous dire le slogan sous Ben Ali parce que là, on va me faire écorcher.
Qu'est-ce que vous avez avec Ben Ali aujourd'hui?
J'ai dit que j'allais faire de la promotion.
Il est en Arabie Saoudite d'ailleurs. Il paraît qu'il n'est pas en très bonne santé.
Ah, ben il est très, 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 très.
Il y a moins d'argent. Hein.
Ouais. Je souhaite tout simplement que la Tunisie et l'Algérie se retrouvent en finale.
Ah oui,
j'espère tout simplement que dimanche.
C'est vendredi prochain, les gars, 19h.
Et que dimanche, tout se passera.
On sera tous là pour le mieux. Cas,
donc voilà.
Il faudrait vraiment que vous ameniez une télé qu'on regarde.
Il n'y a aucun problème, je vous amène ça. Vous voulez la voir tout de suite? Il est déjà sur le téléphone.
C'est pire que Macron, et c'est un vrai magicien. Absolument, c'est impressionnant. Bon, en tout cas, oui, non, mais
en tout cas,
plaît,
j'ai vu ça sur ma
bien.
Télé hier soir, comme tous les matchs.
Non, mais sérieusement, ayez un bon comportement. Allez fêter comme il se doit cette victoire. Soyez dignes. Regardez ce qui se passe en Algérie.
Alors, comme il est 59, effectivement, Christophe, je redeviens sérieux pour la fin de l'émission.
Oui, s'il vous plaît. Parole de sagesse.
Je souhaite que tous les supporters, en tout cas que tous les auditeurs de France Maghreb 2 donnent le meilleur exemple et nous fassent à Paris ce que les Algériens font à Alger en termes de civilité
et de
respect des lois de la République et que ceux qui n'écoutent pas la radio soient, comment dire, informés pour ceux qui l'écoutent, comme disait Djouha, que celui qui a écouté dit à ceux qui ne l'ont pas encore fait.
Merci, ça suffira pour aujourd'hui. Merci Nasser Lagi, merci Gamal Amina. Merci à tous les trois dans un instant. Le grand forum du sport. On va revenir, on va parler du foot évidemment, mais là on va s'intéresser bien entendu à la tactique, au jeu, à ce qui s'est passé hier soir et qu'est-ce qu'on a eu peur pour l'Algérie. Ce fut dur et compliqué. On en reparle en détail avec nos amis Razik Metich et Hicham Terrak juste après le rappel de l'actualité, puisqu'il est, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à Paris et comme partout ailleurs en France d'ailleurs, 18h. Le rappel de l'actualité de ce vendredi soir.
Bonsoir. François de Rugy a voulu sauver sa tête en offrant la mienne. Accusation de son ex-directrice de cabinet, limogée hier pour avoir conservé un logement HLM alors qu'elle n'habitait plus à Paris. Nicole Klein confirme par ailleurs à Ouest-France l'existence du dîner de lobbyistes de l'énergie en mars dernier au ministère. Dîner dont elle a été écartée, dit-elle, par le ministre lui-même. Plusieurs centaines de sans-papiers évacués du Panthéon à Paris. Ils occupaient le bâtiment depuis le début de l'après-midi pour réclamer leur régularisation ainsi qu'un rendez-vous avec Édouard Philippe. Les migrants et leur soutien continuent à manifester devant l'édifice. 2 mois de prison avec sursis pour l'homme qui avait proféré des injures antisémites contre Alain Finkielkraut en marge d'une manifestation de gilets jaunes à Paris. Le tribunal a reconnu le caractère antisémite des propos. Le philosophe n'avait pas porté plainte. 86,5%, c'est le taux de réussite au brevet cette année. Chiffre dévoilé par le ministère de l'Éducation nationale. 703 300 candidats ont été admis. Le taux de réussite est en baisse de 0,6% par rapport à l'an dernier. Un tableau volé en France en 1973 réapparaît en Allemagne. Ce tableau de Théodore Chassériau avait été volé dans une église à Marcoussis en région parisienne. 46 ans plus tard, un expert a découvert qu'il allait être mis aux enchères à Wiesbaden. Le vendeur a expliqué qu'il avait hérité de la toile et il a accepté de la rendre à son propriétaire. Enfin, la qualification de Novak Djokovic pour la finale de Wimbledon, le numéro 1 mondial, a battu l'Espagnol Roberto Bautista en 4-7. Il affrontera dimanche le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose Roger Federer à Rafael Nadal. Le match vient de débuter. Bonne fin de journée à tous.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.